Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 22 novembre de 18 à 21h, en différé jeudi 23, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
Patrick Hoffman au micro et à la direction de cette émission. C'est déjà une mauvaise nouvelle, rassurez-vous, il y en aura d'autres. Alors, je présente nos excuses aux éditeurs et aux auditrices qui attendent Serge de Bekech depuis 15 jours et je leur donne quand même quelques explications sur son absence. Beaucoup d'entre eux savent que Serge, après quelques problèmes de santé, se soumet à un régime extrêmement draconien. Alors, disons qu'il a... Je ne suis pas médecin, hein, c'est mon interprétation. Il a vécu sur ses réserves pendant quelques mois. Il commence à être très fatigué. Or, ce matin... au moment où, et en début d'après-midi, au moment où il allait se reposer, récupérer et accumuler un peu d'énergie pour cette émission, il a été contraint de se rendre une fois de plus au palais de justice de Paris dans un contexte invraisemblable et scandaleux. En deux mots, dans le libre journal imprimé, Serge s'était permis de mal parler d'un spectacle absolument scandaleux à tendance pédophilique et il avait eu le malheur de dénoncer son organisateur or et de mentionner une condamnation. Or, m'explique-t-il, c'est le spectacle qui a été condamné comme personne morale, je présume, ou comme personne immorale, et non pas l'organisateur qu'il poursuit. Donc Serge n'a pas pu, il est donc sous le coup de milliers d'euros d'amende et il n'a pas pu se reposer cet après-midi, donc il est épuisé et incapable d'assurer l'émission. Alors j'espère que vous allez quand même rester avec nous nombreux et nombreuses, parce que si Serge est absent, son esprit souffle où il veut et le programme de cette émission a été composé par lui. Dans quel esprit ? Dans un esprit d'actualité. Nous allons faire une émission d'actualité. Nous allons traiter en termes différents, dans des termes que vous ne risquez pas d'entendre sur les gros médias, de l'actualité la plus chaude. Nous allons parler d'actualité internationale avec, bien entendu, l'assassinat de Pierre Gemayel au Liban. Nous allons ensuite parler d'économie avec Jean-Pierre Rondeau, notre expert financier indépendant, et il risque de le faire rougir, mais tout le monde n'a pas la radio en couleur, un des meilleurs experts financiers français. Ça n'est pas nous qui le disons, parce qu'il est là. Ce sont ses pairs qui lui ont donné des responsabilités nationales dont il ne veut pas parler, certainement par modestie. Et nous aurons enfin l'actualité religieuse. Là encore, ça n'est pas un caprice de notre part, ça n'est pas vraiment nous qui en décidons. La plupart de nos auditeurs savent que l'actualité religieuse est extrêmement chaude, extrêmement passionnante en ce moment, puisque l'écuménisme en arrive à faire dialoguer des catholiques entre eux. Nous en parlerons avec l'abbé Héry. Alors, pour commencer, avant de lancer Jean-Pierre Rondeau sur l'économie, Bernard Anthony a la gentillesse de faire une espèce d'annonce de son programme de 19h30, puisque vous avez invité Richard Haddad, le militant libanais bien connu. Vous êtes vous-même, Bernard Anthony, un fin connaisseur du Liban, et vous en revenez. Alors, j'ai juste une question avant 19h30, où vous y reviendrez plus largement. Hier, tous les médias en cœur, comme d'habitude, nous disent l'assassinat de Pierre Gemayel, c'est la Syrie, et aujourd'hui, tous les médias en cœur nous disent « Ah, mais c'est pas sûr, à qui profite le crime ?» Qu'est-ce que vous dites, Bernard Anthony ?
Oui, écoutez, j'analyserai tout à l'heure, parce que dans ces cas-là, donner une réponse brutale, il faut la motiver. Mais enfin, je rentre de 8 jours au Liban. Samir Jaja, que j'ai rencontré toute une journée, m'avait dit « Bernard, il va y avoir des attentats ». Solange Gemayel, j'ai rencontré toute une journée, m'a dit « Bernard, il va y avoir des attentats ». Je leur ai dit « Mes amis, gardez-vous, je vous en supplie ». Et pourquoi faut-il qu'il y ait des attentats ? Parce qu'il faut 3 députés de moins pour qu'on élise à nouveau un président pro-syrien. Alors voilà, ça c'est l'objectivité des faits. Ça en fait un de moins qui était en première ligne, hein, contre l'occupation syrienne.
Alors vous nous répondez très clairement, oui, le crime profite à la Syrie.
Il est évident que la Syrie a intérêt. Je ne réponds rien, parce qu'il y a ceux qui ne savent rien et qui parlent. Il y a ceux qui ne savent rien et qui parlent. Bon, moi, c'est mon 20e séjour au Liban. J'étais d'ailleurs, il y a 8 jours, 15 jours, dans les geôles syriennes de Tripoli. Je vous prie de croire, j'ai vu là où avait pourri sans jamais avoir une fenêtre ni rien, comme Samir Jaja y a été détenu, des centaines de jeunes opposants. Alors, ce que je sais, moi, simplement ceci, c'est que pour que le général Laoud ait un successeur d'Aouleiter, comme lui, de la Syrie, que je n'admire pas, hein, c'est clair, parce que, quand même, qui a tué notre ambassadeur de la mare, les Syriens, qui a fait sauter nos parachutistes, le Hezbollah pro-Syrie. Alors, tout à l'heure, je vais analyser un peu mieux, je vais vous parler de Hezbollah, parce que je suis le seul, aucun journaliste n'a été accepté, avoir été accepté pour des raisons que je dirai tout à l'heure, avoir tout le sud. J'ai longé la frontière israélienne. Je ne vais pas tenir un propos parce que je suis fatigué des nationalistes français qui ont toujours le besoin de se réfugier, les uns avec le lobby musulman, je pèse mes mots, et il y en a beaucoup, et les autres avec le lobby israélien. Moi, j'ai vu la saloperie israélienne qui est celle des bombes sous munitions, ça n'est pas digne, mais en même temps, le Hezbollah, c'est pas ma tasse de thé. Hein ? Alors, je le dis de la manière la plus claire, et donc, il faut encore enfin des trois. Donc, et à nouveau, la Syrie sera maîtresse du Liban. C'est tout ce que je peux dire. Ensuite, il y a des jeux subtils. C'est bien évident la Syrie, c'est un régime hérité le fils hérite du père, régime baasiste, avec une grande tradition, tout de même, qui est celle des Hachichins. Hein, qui est celle des Hachichins. Ce régime a tué. Alors, ceux qui ne savent pas, le président Mourawad, hein, à peine était-il élu, il esquisse à peine une petite critique de la Syrie, on le convoque à Damas et on le tue en route. C'est pas les Syriens ? Bon, et pour ce qui est de... alors là, moi, je regrette, je n'ai pas ces sympathies, il est vrai que je ne touche pas d'argent syrien.
Bon, ben, les auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur, il manque quelque chose, puisque déjà, Bernard Anthony
et je ne touche pas non plus d'argent israélien. Hein, voilà, la liberté n'a pas de prix, et voilà pourquoi tout à l'heure, avec Richard Haddad qui est là, qui était un grand ami de Pierre Gemayel, hein, j'étais chez les Gemayel il y a 10 jours, alors je vous prie de croire que si on racontait aux Gemayel aujourd'hui et à tous nos camarades du Liban que ce n'est pas un coup de la puissance occupante, ils ne seraient pas contents.
Et on peut comprendre, y compris d'ailleurs un mécréant comme moi-même, la colère rouge de Bernard Anthony en pensant à tous nos frères des communautés chrétiennes du Proche-Orient, en pensant aux chrétiens d'Irak, en se rappelant qu'une bonne sœur catholique a été coupée en deux par une rafale de pistolets mitrailleurs en Somalie, si je me souviens bien, uniquement parce qu'elle était catholique, en pensant aux prêtres catholiques assassinés en Turquie les uns après les autres, les communautés chrétiennes du Proche-Orient souffrent et cela mérite que nous en soyons affectés et que vous donc que vous reveniez avec Richard Haddad tout à l'heure longuement à partir de 19h30.
Nous ferons une analyse un peu plus géopolitique, on formalisera un peu plus. Là, j'ai voulu exprimer tout de même de l'indignation devant des affirmations non fondées. Quand on émet des opinions, il faut essayer de les fonder. Et je crois que Jean-Pierre Rondeau...
Je peux dire quelque chose. Je voudrais saluer l'honnêteté de notre ami et dire combien ce qu'il a dit au départ est important, c'est-à-dire le refus de choisir un camp dans ce combat musulman israélite et Israël, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des amis qui sont déchirés, qui soit au nom de l'anti-islamisme vont absolument soutenir Israël sans discernement, ou soit par détestation d'Israël vont soutenir complètement le Hezbollah ou d'autres mouvements. Je crois que c'est de notre point de vue à nous que nous devons choisir qui est selon les moments et selon la politique, quel est notre allié et pas en fonction de combats qui se passent chez d'autres. Voilà.
Voilà, nous on a, si vous voulez, pour résumer, une vieille politique, elle remonte
c'est
à Saint-Louis.
Pour ça que je parle
d'honnêteté. On s'occupe des chrétiens du Liban, on s'occupe aussi des plus faibles d'ailleurs. Ce qui fait que nous n'appartenons qu'au lobby de la solidarité chrétienne qui est la plus faible.
Voilà. Alors je vous remercie beaucoup Bernard Anthony, Richard Haddad, et j'invite nos auditeurs à retourner la télé contre le mur, à rester avec nous, à vous retrouver donc à 19h30 pour un examen plus complet mais pas moins passionné des événements du Proche-Orient.
Merci beaucoup Patrick.
Particulier du Liban.
Merci bien de m'avoir permis de dire cela. Merci à tous. Bonne émission. Je vais l'écouter.
À tout à l'heure.
En dehors du studio.
Bernard et Richard, merci beaucoup. Nous passons donc à l'économie avec Jean-Pierre Rondeau, notre expert économique indépendant. Et alors, je vais vous citer, Jean-Pierre, la une du Figaro hier, et vous allez vous mettre à ma place, et à la place des auditeurs comme moi qui ont un peu de mal à comprendre le fonctionnement de l'économie et le fonctionnement de la bourse. Et pourtant, on a l'impression en ce moment... Donc on achète le Figaro hier, et le gros titre à la une, c'est « Les Américains à l'assaut des bourses d'Europe ». Aujourd'hui, toute la journée à la radio, on nous parle de la fusion Suez-GDF. On se doute bien que ça nous concerne, mais on ne peut pas, ce sera ma deuxième question tout à l'heure, on ne peut pas très bien comprendre ce qui se passe. Là, je voudrais vous lire les cinq lignes d'attaque de l'article du Figaro et que vous nous expliquiez un petit peu en termes simples comment fonctionnent les bourses et comment ces événements sont possibles. Je cite le Figaro donc d'hier. L'offensive américaine, donc le surtitre c'est « Alors que le New York Stock Exchange, bon ça je suppose que c'est la bourse de New York simple, veut racheter Euronext, qui est, je crois, vous allez nous le préciser, hein, un conglomérat de bourse européenne. Le Nasdaq, c'est la bourse électronique, s'attaque à la bourse de Londres. Alors, attaque de l'article, l'offensive américaine pour prendre le contrôle, mais écoutez bien, pour prendre le contrôle des marchés financiers européens s'accélère. Hier, le Nasdaq a lancé une OPA de 4 milliards sur la bourse de Londres, qu'il a immédiatement rejetée. Ah bon, quand même. Le plus grand marché américain, 14 milliards de capitalisation, est sur le point de racheter son homologue européen Euronext, qui regroupe les bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne. Cette mainmise américaine inquiète. Expliquez-nous, Jean-Pierre Rondeau, si on a raison d'être inquiet, pourquoi?
Ben, on a raison et on n'a pas raison. Je suis désolé. Pardon. Le côté effectivement nationaliste devrait me faire dire qu'on a tort. Et on le voit non seulement au niveau de la bourse, mais on le voit aussi au niveau des maisons dans le sud de la France. On le voit au niveau des sociétés françaises. C'est vrai qu'on peut avoir le poil qui se hérisse quand on voit que les étrangers, y compris les Américains, bien sûr, et notamment ceux dont on parle souvent, c'est les fonds de pension, se mettent à acheter en France et en Europe, se mettent à acheter des biens qui ont une valeur, que ce soit donc des maisons, comme je l'ai dit, ou que ce soit des entreprises. Maintenant, on est aujourd'hui dans une économie mondiale, et pas seulement mondialiste. Et
dans Est-ce que ça veut dire une économie américaine?
Non, c'est pas une économie américaine, mais il est évident qu'à partir du moment où on a accepté une économie qui soit libérale, non pas au sens négatif tel qu'il est entendu en matière politique, mais de libérale, c'est-à-dire avec un libre marché, avec le droit de se porter acquéreur et de laisser le marché dire le prix. À partir de là, on est confronté effectivement au risque que d'autres qui ont des moyens puissent.
Qui ont des moyens. Je vous interromps une seconde. Ils ont des milliers de milliards de dettes publiques. Ils vont nous payer avec des bons de la Smeuse ou des billets de Monopoly?
Ils vont payer effectivement avec du dollar qui peut demain valoir encore moins cher. Mais ils vont payer aussi avec de l'argent qui vient de l'ensemble du monde entier, puisque vous le savez, les pays asiatiques, les pays du Moyen-Orient, etc., aujourd'hui investissent sur le marché américain, plus les fonds de pension. Donc tout ceci se porte aujourd'hui vers la bourse. Il est évident qu'aujourd'hui les entreprises ont choisi de faire un effet de taille, pour avoir la plus grande puissance possible. Et puis, il s'est livré des batailles, pas seulement entre Américains et Français, mais ou Anglais, comme on le dit, mais par exemple avec la bourse allemande, qui a pratiquement à un moment donné trahi l'Europe, en tout cas trahi l'Europe continentale en choisissant de s'allier notamment dans un premier temps avec les Britanniques. Donc vous me disiez la bourse c'est quoi? La bourse c'est d'abord un marché qui n'existe plus, notamment en France, comme on le voit encore quelquefois dans certaines images avec des gens qui se réunissent au Palais Brongniart et pour choisir le meilleur cours entre une valeur qui se vend et une valeur qui s'achète. Mais ce sont aujourd'hui des ordinateurs et ce sont...
Les titres sont dématérialisés.
Dématérialisés, donc on travaille sur l'ensemble des marchés et je dis souvent à mes clients qu'aujourd'hui on achète les mêmes titres et les mêmes SICAV par exemple, les mêmes fonds communs, on les achète aussi bien à Paris, que c'est le même à Paris qu'à Londres, qu'à Luxembourg, qu'en Allemagne ou aux États-Unis ou en Asie, ce sont les mêmes titres, ce sont les mêmes gérants, et donc c'est effectivement une mondialisation complète de l'économie.
À vos clients, Jean-Pierre Rondeau, parce que je pense que vous voulez bien qu'on le dise, vous êtes conseiller en gestion
patrimoine. Alors oui, je voulais corriger un peu. Vous avez été très gentil avec moi et merci. C'est vrai que j'ai beaucoup rougi. Avant d'être un expert financier, ce que je ne prétends pas être d'ailleurs, je suis un expert en matière, quelqu'un qui connaît bien le métier de gestion de patrimoine, de conseil en gestion de patrimoine.
Ça nous permet de dire que vous êtes indépendant.
Hein, voilà, alors
n'êtes pas téléguidé par on ne sait quel trust pour y influencer les gens ici dans un sens ou dans un autre. Vous parlez dans leur intérêt. Et d'ailleurs, les auditeurs restent avec nous parce qu'ils vont voir que nous allons procéder du général au particulier. Là, nous parlons de macroéconomie, de l'offensive américaine sur les bourses européennes. Nous allons ensuite passer à la fusion GDF. Et ensuite, nous allons arriver à ce qui les touche directement, à savoir le sort de leur retraite qui est menacée.
Alors le métier de, si vous voulez, je suis obligé de parler de deux minutes compte tenu de ce que nous sommes en train de dire. Je suis un conseil en gestion de patrimoine. Ce conseil en gestion de patrimoine, il existe partout, c'est-à-dire il existe chez les banques, il existe dans les compagnies d'assurance et il existe chez nous, les indépendants ou voire des sociétés de gestion de portefeuille. Donc c'est souvent le conseiller qu'on a à la banque, le chargé de clientèle avec un peu plus de sophistication, de formation, etc. La différence entre le CGP, donc le conseiller en gestion de patrimoine que l'on trouve par exemple chez son banquier et nous, c'est que nous ne sommes pas obligés de vendre les produits de la banque, premier point. La deuxième chose, c'est que nous restons en face de notre client, nous ne bougeons pas tous les deux ans par une mutation ou parce que le banquier, ça l'arrange. que le client ne s'attache pas trop à un collaborateur qui demain va pouvoir partir, hein, et entraîner ses clients dans un autre établissement. Donc nous avons donc cette indépendance totale. Nous avons aussi, parce que nous venons souvent de profession et nous sommes passés par la banque, c'est mon cas, nous avons une formation, une expérience qui est relativement longue, c'est mon cas, mais malheureusement j'ai 59 ans, et donc tout ceci nous permet d'être un conseil face à notre client, ouais, sur l'ensemble de son patrimoine, voilà, c'est-à-dire pour parler avec lui de questions juridiques ou fiscales. Nous sommes des généralistes et pas des spécialistes, nous sommes des généralistes capables de parler d'un, par exemple d'un régime matrimonial, de préparer une succession, d'aider un client à faire des ses impôts, que ce soit l'ISF ou l'IR, et derrière de conseiller de l'immobilier, un achat immobilier ou pas, avec un crédit ou pas, de parler d'assurance vie comme je l'ai fait quelques fois ici, de parler de portefeuille de titres, de parler de PEA, de plan épargne logement, etc. Donc l'ensemble du patrimoine de notre client. C'est ce que je tenais à préciser, et c'est pour ça que mon métier me conduit à parler simplement, comme vous me l'avez demandé tout à l'heure, c'est-à-dire avec mes clients qui sont souvent des gens qui peuvent avoir qui généralement un petit patrimoine ou un plus gros patrimoine, mais qui ne sont pas des financiers, qui n'ont pas la culture, avec souvent des dames assez âgées qui se sont retrouvées à un moment donné à la tête d'un patrimoine à la suite du décès d'un mari, et qui n'ont pas les connaissances. Donc ceci me conduit à parler non pas de chiffres assénés, de grands chiffres comme le ferait un expert financier tel que vous le titre que vous m'attribuez souvent, mais plutôt à essayer de vulgariser le conseil.
Bon, on n'a pas vraiment quitté notre sujet de départ, voilà. Jean-Pierre Rondeau, en expliquant quel était votre métier et finalement en voilà. Disant aux auditeurs qui parlent, et à quel titre vous vous exprimez, voilà. et en leur montrant bien clairement que vous êtes tout à fait indépendant.
Alors, ce que je voudrais dire, excusez-moi, mais si quand je fais acheter, moi, dans un patrimoine, je conseille des, par exemple, des titres à travers soit un compte titre ou un compte, là, dans le cas particulier dont on parle, ça serait pas un PEA, mais dans un compte titre classique ou dans un contrat d'assurance avec des unités de compte où se trouvent dedans des SICAV actions, il est évident que je diversifie le portefeuille, que j'achète des titres étrangers et que j'achète donc des titres américains, et que demain j'achèterai sur le Nasdaq, qui est un marché pour expliquer il y a le CAC 40 et dessous il y a des valeurs moins importantes que les 40 pour la France. Et bien aux États-Unis, le Nasdaq est un marché de valeurs plus moyenne, si vous voulez. Voilà. Et donc demain, je vais être moi-même conduit à conseiller indirectement à mes clients. Ils achèteront aussi peut-être la bourse américaine, qui sera quelque part propriétaire de la bourse.
Voilà. On va continuer à engraisser les retraités américains et leur fonds de pension. C'est le cas. Et est-ce que je vous l'apprends, Jean-Pierre Rondeau? Vous n'êtes peut-être pas fan de football, mais je vous apprendrai, pour votre plus grande joie et votre édification, que les contribuables parisiens financent à hauteur de plusieurs millions d'euros chaque année le PSG, censé être le club de football représentant la capitale et qui est propriété d'un groupe de fonds de pension américains. Bon, on va laisser tomber l'Amérique, on va quitter l'Amérique, on va arriver en France. Vous voyez, on se rapproche petit à petit des auditeurs et de leurs intérêts personnels. Et je voudrais vous interroger maintenant, à peu près à l'heure que j'avais prévu, je suis ravi d'arriver à suivre mon conducteur, sur la fusion Suez-GDF. Parce que nos auditeurs ont entendu sur des médias, non pas concurrents, puisque nous sommes associatifs et sans but lucratif, mais ils ont entendu toute la journée sur tous les médias qu'ils ont pu écouter, que, je cite cette fois Le Monde d'aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris a ordonné à Gaz de France, dans la nuit du 21 au 22, vous voyez comme c'est dramatique, la Cour d'appel a siégé pendant la nuit pour ordonner à Gaz de France de reporter son conseil d'administration prévu aujourd'hui. Celui-ci devait entériner le projet de fusion avec Suez. Alors, je cherche des explications, j'en trouve un peu plus bas, je cite Le Monde à nouveau. Sachant que le Parti Socialiste est hostile à la fusion et que Nicolas Sarkozy semble réservé face à ce projet défendu par Dominique de Villepin, les dirigeants des deux groupes veulent à tout prix boucler cette opération avant l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle. Alors, Dominique Rondeau, je ne sais pas pourquoi je vous appelle Dominique. Vous êtes le fils caché de Dominique de Villepin. Ouais. Jean-Pierre Rondeau, les gens qui ne sont pas versés en économie comme moi demandent à comprendre deux choses. Pourquoi est-ce que cette fusion pourrait prendre plus de 6 mois. Pourquoi est-ce que la Cour d'appel de Paris intervient là-dedans en siégeant de nuit de façon parfaitement dramatique? Et quel rapport ça a exactement avec l'élection présidentielle?
Bien, c'est simple, c'est que en fait, ce que vous n'avez pas dit, c'était que ceci se passe à la suite d'interventions de syndicats. Hein. Et quand on convoque donc des assemblées générales pour entériner notamment des projets aussi importants, on est obligé de respecter un cadre législatif de convocation, de délai, etc., qui n'a pas en ce cas été respecté. Donc ça conduit à effectivement une décision de justice qui annule la convocation qui était prévue et qui fait que il existe à nouveau un nouveau délai de convocation administratif qui fait tomber au moment à peu près en fin de campagne politique et juste avant les élections. Et donc il existe de graves pressions. Vous savez que c'est un domaine très sensible et très politique. On a vu par exemple Serge de Bekech il y a quelques mois, je me souviens très bien, défendre, et je suis un nationaliste donc je comprends tout à fait cette position, défendre se battre contre cette fusion et indiquer qu'il était contre. Et donc il y a des forces politiques en présence. On a vu le Parti socialiste, à mon avis, c'est plus un moyen pour lui de montrer qu'il est dans l'opposition. C'est pas une conviction. Et je pense que s'il était au pouvoir, il aurait donné les mêmes accords. Enfin, il serait aujourd'hui à la même position. C'est un peu aussi le cas de Sarkozy. Sarkozy, ça embête Villepin. Et donc voilà.
Donc on s'amuse.
On est à une période qui est très sensible aux élections.
On s'amuse avec le patrimoine national pour mettre une peau de banane à un petit
absolument.
Copain qui ne sera plus
rien. Les syndicats qui de toute façon savent qu'au bout du compte, à moins qu'il y ait un changement politique très fort qui fasse que, je dirais, national ou alors totalement communiste qui fasse que la fusion soit complètement annulée. Mais sinon, je crois que de toute façon, elle aura lieu. Et voilà.
Je vous remercie, Jean-Pierre Rondeau. On va se tourner vers Victoria et qui a peut-être quelques messages d'auditeurs.
Un petit message. Ségolène Royal a promis de terroriser les gros capitalistes. Pensez-vous que ceux-ci vont vraiment être terrifiés?
Je peux vous dire qu'actuellement, les marchés ne sont pas du tout terrifiés par Ségolène Royal ni par les socialistes.
La bourse monte aujourd'hui.
Je dirais aujourd'hui, elle a légèrement baissé. Elle a monté en début de journée et puis pratiquement à l'équilibre. Mais on rappellera, et je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis dans les auditeurs, mais on rappellera que la bourse pendant la période socialiste n'a pas été si mauvaise que ça, et je considère pas que, au vu de ce qui se passe au niveau du gouvernement actuel, des promesses de Monsieur Sarkozy en faveur des immigrés, etc., je considère pas qu'on soit plus dans un système socialiste avec les socialistes qu'avec Monsieur Sarkozy et ses vagues copains.
Une autre question pour Monsieur Rondeau.
À propos des maisons vendues dans le midi de la France, y a-t-il des intermédiaires entre le vendeur et l'acheteur étranger?
Oui, bien sûr, il existe des agences très spécialisées aujourd'hui d'ailleurs qui travaillent directement avec la Grande-Bretagne, qui passent des publicités par exemple en Grande-Bretagne. Bien sûr qu'il y a des intermédiaires comme toute opération immobilière.
Alors là, j'en ai un qui est rédigé très méchamment. Qu'est-ce que vous nous dites là? On n'a jamais accepté la mondialisation, ni le mondialisme assassin, ni la soi-disant Europe.
On va peut-être abréger, c'est assez grossier comme message.
Tout cela nous est imposé.
Mais Jean-Pierre Rondeau d'ailleurs a déjà répondu, je crois.
Je suis un national et je suis nationaliste depuis ma plus tendre jeunesse, donc je l'étais dès 14 ans. Mais bon, aujourd'hui, on est dans un système mondial. Moi, mon rôle, il est quoi? J'ai des clients et j'ai de protéger leur patrimoine et d'essayer. Alors, le monde peut toujours nous tomber sur la tête. Il peut nous arriver toutes les catastrophes. Moi, je suis bien obligé de faire avec ce qui existe et je peux pas laisser l'argent de mes clients dans des lessiveuses. Voilà.
Bien.
La conclusion, c'était, alors elle était vigoureuse.
Allez-y, ça me gêne.
Étrangers dehors, c'est pas nous, hein, c'est le message. Hein. Fermeture des frontières, le travail pour les Français, on se retrousse les manches et on remet de l'ordre français.
On peut même faire un système communiste comme ça.
C'est un de ces héros du fax que j'avais invité à nous retrouver devant l'ambassade du Danemark au moment de la faire des caricatures et que je n'ai pas vu. Un seul exemplaire. Bon, donc on va passer et on va arriver à l'aspect de l'économie qui touche directement. Donc c'est la troisième et dernière tranche de notre entretien ce soir, Jean-Pierre Rondeau. La partie de l'économie qui touche directement nos éditeurs. Vous avez récemment dans le Libre Journal imprimé de Serge de Bekech. Bon, nous avons donné l'alerte sur les projets de pillage sur l'assurance vie. On peut peut-être même s'imaginer qu'on a contribué à y mettre le haut là, puisque le gouvernement y a renoncé. Bon, on n'était pas les seuls à crier.
Très modestement, mais bien sûr, on a contribué.
Les assurés et les assureurs criaient aussi, mais on a contribué parce que, encore une fois, nous, on est indépendants et on peut dire aux gens ce qui se passe vraiment. Personne ne nous tient, ne nous oblige à leur vendre des emprunts turcs ou des emprunts russes. Alors, dans un numéro plus récent du Libre Journal, vous parliez de nouvelles menaces sur les retraites, et moi-même, je dois vous dire que je viens de lire, c'est même un article à paraître, donc je peux pas faire état de ma source, il va paraître dans quelques jours un article sur des menaces sur la formule Madelin, comment ça s'appelle
le Madelin, oui, le contrat Madelin qui est destiné aux professions.
Alors, est-ce qu'on va dépouiller, arracher leurs fagots, la question est simple, est-ce qu'on va arracher leurs fagots aux petites vieilles au coin du bois systématiquement, est-ce que vraiment les retraites, les patrimoines de nos auditeurs âgés ou en pré-retraite sont menacés systématiquement ?
Si vous voulez, le contrat Madelin, donc, il est destiné à compléter les retraites avec des avantages fiscaux des professions libérales, de ceux qui ont des retraites qui sont pas terribles. Hein. C'est un peu le doute quand mes clients me demandent, puisque j'ai des professions libérales, je suis pas un passionné des retraites Madelin ni des PERP qui sont destinées aux particuliers. Ni de ces retraites dont on entend la publicité régulièrement à la radio, mais le nom m'échappe pour les fonctionnaires. Pourquoi ? Parce que ce sont une capitalisation, on met de l'argent de côté avec un avantage fiscal, mais on ne peut sortir qu'en rente, on ne peut jamais récupérer son capital et donc on ne pourra sortir qu'en rente. Et je me dis qu'effectivement dans les années à venir, quand les retraites iront plus mal, on ne sait pas si le gouvernement ne pourrait pas dire qu'après tous ces retraites qui ont été des retraites volontaires et complémentaires quelque part, ne pourraient pas être fusionnés avec certaines caisses de retraite, etc. Donc moi je préfère laisser mes clients choisir, parce qu'il y a un avantage fiscal au départ, mais à la fin on a une rente viagère qui est en plus imposée. Donc on a un avantage qu'on repaye finalement à la fin, alors que si on était sur une retraite d'assurance vie, un retrait d'assurance vie, même en rente viagère, que je ne conseille pas non plus d'ailleurs, compte tenu des taux actuels, on serait gagnant et on reste libre de son patrimoine. Maintenant, sur cette nouvelle menace, je n'ai pas lu l'article. Pour l'instant, moi, je n'ai rien entendu et je doute fort qu'à court terme, il y ait un risque quelconque.
Mais vous n'avez pas l'impression d'une espèce de convergence, comme trois ou quatre malandrins qui convergeraient sur la petite vieille pour lui arracher son fagot ?
Non, ce qui existe actuellement, c'est que l'État a besoin à tout prix d'argent, et notamment pour compléter les retraites, etc., pour le trou de la Sécu. Bon, on a vu ce hold-up dont vous parliez tout à l'heure, cette tentative de hold-up qu'on a réussi parce que on y a participé. Quelque
sur
part. L'article du Libre Journal, moi je l'ai diffusé à toutes les compagnies d'assurance, etc. Donc on a eu quand même un petit rôle. Et donc c'est un hold-up parce que on avait poussé les gens à passer leur contrat ancien au monosupport en multisupport, à prendre un risque de 20% d'action, en échange de quoi ils ne paieraient pas immédiatement la CAG et la RDS. Et pendant l'été, ils ont tenté le gouvernement a tenté d'imposer la RDS comme il venait de le faire pour les plans épargne logement. Ce que je viens de dénoncer maintenant, c'est que peut-être par vengeance, c'est pas sympathique. L'État a décidé de confier, de prendre ce qu'on appelle les contrats en déshérence, c'est-à-dire des gens qui décèdent et dont personne ne vient réclamer le bénéfice du contrat, et donc que ça reste dans un pot commun, etc. Alors sur un premier, quand on regarde la première fois, on peut se dire qu'après tout, c'est pas normal que les compagnies se mettent de l'argent dans la poche sur les gens qui sont pas venus réclamer les contrats. Mais ça sert à l'amélioration, en tout cas, des contrats et derrière donc des résultats de la compagnie. Mais d'autre part, la loi s'est renforcée récemment et aujourd'hui, les compagnies ont l'obligation d'aller chercher les héritiers. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc je trouve ça assez mesquin de qu'intervienne cette espèce de prise de l'État pour aller de prendre l'argent pour aller en plus le mettre. À la limite, cet argent-là, s'il est à personne, il devrait aller à tous ceux qui ont souscrit le même contrat d'assurance et qui ont pris donc peut-être un risque en confiant de l'argent à une compagnie et non pas à revenir dans l'ensemble des retraites de tous les Français pour aller combler un trou. Voilà.
On va poursuivre, j'espère, dans un instant, Jean-Pierre Rondeau, mais je voudrais faire une incise au sujet du Libre Journal parce qu'on l'a cité d'abondance et je voudrais pas oublier de dire aux éditeurs que ça n'est plus la peine d'écrire ni même de téléphoner ni d'envoyer des carnets de timbre pour le Libre Journal imprimé numéro 392. Qui est épuisé. Serge de Beckett qui faisait des révélations assez extraordinaires et donc on a été littéralement dévalisé de ce numéro 392, donc inutile de le commander. Par contre, oui je dis par contre, hein, avec Grevis, dans les gros médias on dit en revanche, même quand trois enfants ont été brûlés vifs dans une maison, en revanche ces trois enfants, tu parles d'une revanche, bon alors moi je dis par contre avec Grevis. Eh bien par contre, dans le numéro 393, les révélations vont continuer. Donc, si elles vous intéressent, et si vous avez manqué le numéro 392, commandez le numéro 393 pour un carnet de timbre ou 5 euros. Chez, donc à l'ordre de SDB, 4 places France List, 75-010 Paris. Ça vous évitera, si vous vous abonnez, par surcroît, pour 100 euros, d'attendre 2 ans et demi pour découvrir d'autres révélations au sujet des islamistes de Roissy que Monsieur De Villiers a recopié il y a 6 mois. Et qui ont fait que le mois dernier, on a supprimé 72 passes à des islamistes convaincus qui empiétaient sur les zones de sécurité ou soi-disant elles. On est en train de leur rendre une par une. Donc si vous étiez abonné au Libre Journal, vous auriez eu ces révélations il y a 2 ans et demi. Là encore, comme dans cette affaire d'assurance vie, nous ne travaillons pas pour rien, nous ne parlons pas pour les murs, nous ne prêchons pas dans le désert, mais disons que nos révélations, nos messages prennent un certain temps à parvenir aux auditeurs et à parvenir aux autorités surtout, hein, qui sont un peu dures d'oreille. Jean-Pierre Rondeau, si on veut vous joindre, si on veut bénéficier, peut-être moyennant...
Non, j'ai reçu tous les auditeurs de Radio Courtoisie que j'ai reçus, je les ai reçus, même avec un très petit patrimoine, tout petit, je les ai reçus à titre complètement gratuit.
On peut vous... Ah bon voilà. Ah ben c'est extraordinaire. Mais enfin, bon, je reste sans voix. Vous avez une société Mégara Finance.
Mégara Finance, voilà.
Et un site.
Et j'ai un site de www.megarafinance sans S, tout collé. megarafinance.fr.
Alors, je vous remercie beaucoup.
Le téléphone.
Ah, non, attendez, un message, alors rapidement.
Comment paie-t-on les services du cabinet de monsieur Rondeau?
Voilà, je viens de répondre.
Il vient de répondre. Merci beaucoup.
Excusez-moi.
Voilà. Donc, on remercie beaucoup Jean-Pierre Rondeau.
01 44 51 62 20, le téléphone.
Parfait. Et on va tracer une frontière entre l'actualité économique et l'actualité religieuse, aussi chaude l'une que l'autre, avec un peu de musique douce, un joli morceau de musique. À qui vais-je le dédier?
À Serge. Peut-être non.
Le prochain, non. Celui-ci, à elle.
Un rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie. Rien me fait plaisir, un rêve, un petit désir, rien me fait sourire, l'âme ravie. Quand le ciel est joyeux, je me sens le cœur tout bleu, mais quand hélas il pleut, j'aime la pluie. J'aime mon père, ma mère, la France, le bon Dieu, et puis les femmes, les femmes, les femmes qui ont les yeux bleus. Venez avec moi, je cours dans les bois, je brûle des branches pourries. Au cœur de l'hiver, il y a du bois vert, au printemps la neige est fleurie. Et la marmotte dit à l'écureuil, depuis 3 mois je n'ai pas fermé l'œil. Marmotte, vous mentez, voici venir l'été, les oiseaux vont chanter dans la nature. Et mon père, nos mères, la France, mon Dieu, et puis les femmes, les femmes, les femmes qui ont les yeux bleus. Allez, rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie. Rien me fait plaisir, un rêve, un petit désir, rien me fait sourire, l'âme ravie. Ciel joyeux, je me sens le cœur tout bleu, mais quand hélas il pleut, j'aime la pluie. J'aime mon père, ma mère, la France, bon Dieu, et puis les femmes, les femmes, les femmes qui ont les yeux bleus. Bonjour mes amis, le ciel a permis que je chante encore par le monde. La joie et l'amour, ça revient en jour, entrons tous en cœur dans la ronde. Hola garçon et vous filles êtes jolies, dites-vous bien chaque jour, chaque nuit. Rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie. Et mon père, nos mères, la France, mon Dieu, et puis les femmes, les femmes, les femmes qui ont les yeux bleus. Oui, les...
Bonsoir, chers auditeurs. Vous écoutez Radio Courtoisie, vous avez bien raison. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie. Vous pouvez d'ailleurs... faites-le savoir à un parent, un ami qui habite en Australie ou dans la Creuse. Vous pouvez nous écouter sur Radio Courtoisie en un seul mot.com. Faites-le savoir autour de vous. Nous soyons toujours plus nombreux. Alors nous venons, nous avons parlé brièvement de l'actualité au Proche-Orient. Bernard Anthony reviendra pour en parler plus longuement tout à l'heure puisqu'il rentre du Liban, qu'il est avec Richard Haddad ce soir. Nous venons de parler assez longuement d'économie, de macroéconomie et de, on est arrivé jusqu'à la microéconomie grâce à Jean-Pierre Rondeau, notre expert financier indépendant. Et nous passons maintenant à une actualité non moins chaude, l'actualité religieuse. Nous recevons l'abbé Christophe Ferry. Bonsoir.
Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, monsieur l'abbé. Je suis Patrick Goffman. Nous partons de cette réunion surprenante lundi dernier à la Mutualité où l'Institut du Bon Pasteur, qui est déjà quelque chose d'étonnant en soi, puisqu'il a reçu, si j'ai bien compris, la bénédiction de Benoît XVI, est parvenu à réunir autour sur une même tribune le représentant, le rédacteur en chef de L'Homme Nouveau, celui du Choc du Mois, et celui de France Catholique et de La Vie. Alors, la question préalable, je vais commencer par la question qui fâche, monsieur l'abbé. On vous a entendu sur cette antenne. On a entendu monsieur l'abbé Tanouarn, l'abbé Laguéry, qui est, je crois, un ami personnel de Serge de Bekech, pendant des dizaines, sinon des centaines d'heures. Alors, je suis obligé de vous demander pourquoi La Vie catholique, ex-catholique, était encore récemment dirigée par un trotskiste, enfin mal repenti, était invité et pas le Libre Journal.
Ah, alors, écoutez, n'étant pas personnellement l'organisateur cette soirée de la Mutualité qui a été un très grand succès comme vous le soulignez.
On va en reparler.
Je n'ai pas la réponse, si vous voulez, à votre question. Simplement, ma présence ici, c'est aussi pour inviter vos auditeurs, vous inviter vous-même, bien évidemment, le Libre Journal et tous nos amis à la prochaine manifestation qui arrive très vite, qui sera le 2 décembre.
Bien, c'est-à-dire que cette fois, nous serons à l'intérieur parce qu'il y a un millier de braves gens qui ont vu le Libre Journal sous la pluie avec commisération. Bon, le Libre Journal s'est très bien vendu.
Je n'en sais rien. Donc, pour ma part...
Serge de Bekech, qui est un peu brutal, demande est-ce que nous sentons le pâté?
Ah, pardon, là, j'avoue que...
Bon, alors, le 2 décembre, on sera au chaud.
Vous serez au chaud, c'est-à-dire que c'est une autre forme de rencontre, c'est une rencontre universitaire, c'est un colloque, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de stand nombreux comme à la mutualité, il y a simplement des orateurs qui parlent, et puis
Serge de Bekech,
les intervenants présentent éventuellement leurs livres qui sont là, mais ce sera aussi tout aussi intéressant, que le sur un autre registre, plus scientifique, plus universitaire, mais ouvert à tous, sur la liturgie. Mais on en parlera après.
Merci, monsieur l'abbé. Oui, bon, on va quitter les questions qui fâchent et les questions un peu trop personnelles.
Mais j'ai pas la réponse. J'ignorais, vous m'apprenez que le Libre Journal n'était pas invité. Donc, je ne suis pas dans l'organisation de la mutualité.
Et donc, on va revenir donc à cette réunion quand même stupéfiante. Alors, je voudrais citer, pour en donner l'esprit, je voudrais citer la fin de l'article que notre consoeur Jeanne Smith, qui sera sur cette antenne à 19h30.
Oui.
La conclusion de son article dans Présence, c'est « Mais comme les choses changent ». Et bon, moi j'ai d'autres références, je pense à deux vers d'Aragon qui sont « Ah, dans ses propres pas, que marcher est étrange, comme tout a changé, comme rien ne change ». Et en effet, il y a de quoi être surpris. Quand on se souvient de la une, de la vie ex-catholique...
Il y a deux mois, oui.
Il y a deux mois, dirigé encore récemment par mon ex-camarade Gérard Desportes, qui a été formé comme moi à l'OCI trotskiste, qui a ensuite été déformé à Libération pendant des années et des années, et qui était directeur de la rédaction de La Vie ex-catholique.
Ah oui, je vous le mentionne.
Voilà. Donc, La Vie, le nouveau directeur de la rédaction de La Vie à la Tribune, avec un représentant...
Effectivement, vous soulignez le...
Je dois faire la liste. Je vais terminer la liste pour ceux qui ne sont pas abonnés à présent. Ils peuvent encore le trouver aujourd'hui, je pense. France catholique, à côté de L'Homme nouveau, du Choc du mois, de Daniel Amiche. Alors, est-ce que la vague d'écuménisme atteint une telle hauteur que les catholiques, c'est un tsunami écuménique, tel que les catholiques vont parler entre eux, puisque La Vie, on ne l'a pas dit tout à l'heure, on y a fait allusion, mais La Vie catholique publiait une photo de l'abbé Philippe Laguérie, légendé, je crois, pourquoi cet homme doit rester dehors.
Exactement, oui, oui. Et d'ailleurs, la revue Objection a fourni une réponse circonstanciée à tout l'éditorial de Jean-Pierre Denis. Il s'agit de lui. Et puis,
c'était d'une violence insensée, je
le dis. Oui. D'une violence et d'une précision en même temps. Et donc, nous avons pensé que cela méritait une réponse. Et puis, qu'après tout, en l'invitant, peut-être qu'il nous connaîtrait différemment, qu'il pourrait faire valoir ses objections, et afin que nous puissions y répondre. Et il a accepté le débat. Je crois que ce qui est nouveau, c'est à deux échelons, si vous voulez, différents. Cette réunion de la mutualité, vraiment porteuse, je crois, d'une grande espérance pour la tradition catholique, parce que c'était cela son thème, la tradition de notre bien commun. C'est la manifestation que ce qui nous unit, nous chrétiens, nous catholiques, le lien entre nous, fondamentalement, c'est la tradition. Et il peut y avoir évidemment des débats, des différences, mais ce débat qui a été occulté, empêché, en tout cas qui était pratiquement interdit concernant les nouveautés qui ont bouleversé, qui ont amené des mutations par rapport à la tradition, aujourd'hui ce débat peut avoir lieu, c'est ce que manifeste le rassemblement de la mutualité de lundi soir. C'est quelque chose, en effet, d'extraordinaire. L'Institut Bon Pasteur a été, en quelque sorte, missionné par le Saint-Siège pour que les choses puissent changer, non pas dans l'invective, dans l'esprit de système ou l'idéologie, hein, mais que réellement l'on puisse défendre la tradition à l'intérieur même de l'Église, par l'argumentation, par le débat. Après tout, la communion... bien sûr, ce sont les trois liens. La communion dans l'Église, c'est le lien de la tradition de la foi, de la tradition des rites, de la succession apostolique. C'est les trois liens de la communion. Et voilà. Et hors de quoi, eh bien, si ces trois liens sont maintenus, la communion, c'est aussi de pouvoir discuter de ce qui n'entre pas dans ces trois liens, ou de ce qui doit y entrer, et qui n'y entre plus, et de le défendre.
C'est bien,
voilà,
évidemment,
c'est ce qui s'est passé.
De ne plus crêper le chignon, mais est-ce qu'il y a une réelle perspective avec ce que vous appelez, je crois, les conciliaires, pas très gentiment non plus, est-ce qu'il y a, moi j'ai lu beaucoup en dehors de ce numéro de La Vie, j'ai lu et j'ai entendu sur les radios, j'ai pas la télé, non merci, des propos extrêmement violents
bien
contre
sûr.
La tradition.
Ah, non, l'accueil des traditionalistes en France, comme les évêques en ont parlé à Lourdes en avril et puis à nouveau là en novembre, c'était pas une chose à laquelle les esprits étaient disposés.
Certains ont fait la leçon au pape, j'ai bien compris.
Oui. Ah oui, on a entendu de tout. Et les esprits, évidemment, n'étaient pas prêts, sans doute, à ce que le pape puisse ainsi réconcilier des prêtres qui défendent la tradition et de les admettre dans le giron de l'Église, tels qu'ils sont et tels qu'ils ont exercé leur ministère et défendu la foi jusqu'à ce jour. Bon, maintenant c'est fait et ce fait doit bien être admis, vous voyez. C'est vraiment une volonté du Saint-Siège. La fondation de l'Institut du Mont Pasteur, c'est le 8 septembre dernier, un acte de gouvernement du pape.
Alors qu'est-ce qui va se passer? Les conciliaires vont devoir se soumettre. Mais quand je dis se soumettre, ça signifie simplement vous autoriser à pratiquer le rite traditionnel.
De toute façon, cette autorisation...
Parce que moi, ce que j'ai entendu à la radio, c'était on doit le leur interdire. Enfin, comme titre à la une, il faut le foutre dehors, la guérir. C'était on doit leur interdire. Par contre, ajoutait-on, et c'était, je crois, encore un représentant de la vie, par contre, le rite bantou, on l'attend depuis trop longtemps, et la messe au tam-tam, ça c'est formidable,
mais acculturer.
Alors, la messe de toujours, jamais.
À la messe de toujours.
Il faut l'interdire, il faut l'envoyer dans les catacombes.
Voilà. Alors, c'est la situation dans laquelle se trouve l'Église depuis 40 ans presque. Lorsqu'on a retourné les autels, lorsque ensuite on a mis la messe en langue vernaculaire, comme on dit, dans la langue usuelle, qu'ensuite on a imposé de façon très, très brutale, en 1969-70, les nouvelles réformes liturgiques, tout ceci s'est fait avec l'interdiction, comme vous l'avez souligné, absolue, pratiquement de célébrer l'ancien rite. Et le pape Paul VI lui-même, à l'époque, avait bien prononcé, en 1976, le 24 mai, une interdiction, mais qui n'avait pas les formes requises de la légalité. Alors donc on a ainsi fait croire que c'était devenu hors la loi. Et le pape aujourd'hui voudrait rétablir ce droit et remettre la messe traditionnelle dans le droit de l'Église. Et c'est ce qui a eu lieu pour l'Institut du Mont Pasteur, puisque dans nos constitutions, c'est pas une autorisation que nous avons, c'est un droit et une mission. Oui.
Est-ce que ça signifie que les évêques ne pourront plus, comme je crois c'est leur droit jusqu'à maintenant, quand le motu proprio de Benoît XVI qu'on attend sera publié, ne pourront plus interdire ce rite? Je crois que c'est leur droit jusqu'à maintenant. C'est ça qui va changer?
Alors, je ne sais pas si... Nous n'avons pas ce texte sous les yeux, nous ne savons pas quand il sortira. Ce qui est certain, c'est que les évêques français s'y sont opposés à plusieurs reprises, mais que finalement, après l'Assemblée de Lourdes, ils ont signé une motion de confiance au cardinal Ricard et au pape Benoît XVI. Donc, a priori, si un document pontifical est publié en faveur
du rite
ancien, je pense qu'il va l'être. Maintenant, je ne sais pas quand.
On l'annonce.
Il n'a pas été officiellement annoncé. Alors, ce texte, est-ce qu'il va laisser le plein droit pour tout prêtre de célébrer la messe traditionnelle, qui n'est pas la messe de Pie V, qui était le rite, finalement, que célébrait le bienheureux Jean XXIII? Ne l'oublions pas, c'est l'ordo de 1962 que nous célébrons. Cette messe qui remonte à la nuit des temps et qui, par une continuité, ce sera la démonstration qui sera faite dans le colloque dont je vous parlais tout à l'heure, du 2 décembre.
On va annoncer plus précisément.
On va l'annoncer tout à l'heure. C'est une démonstration par des historiens extrêmement qualifiés sur le sujet. Et cette messe, donc, est-ce qu'elle va être établie sans condition ou est-ce qu'elle va tout de même être soumise à une certaine, un certain, entre guillemets, droit de veto des évêques, aujourd'hui, nous ne le savons pas. Quoi qu'il arrive, même si, par rapport au motu proprio de 1988, signé par Jean-Paul II, qui était, je vous le rappelle, le motu proprio d'excommunication de Mgr Lefebvre, et qui en même temps, comme par un passe-droit, accordait la faveur sous condition de célébrer l'ancien rite aux prêtres qui se désolidariseraient de Mgr Lefebvre. C'est-à-dire qu'on avait accordé à ce que demandait Mgr Lefebvre, en partie,
30 deniers,
à tous ceux qui le reniaient. Et donc, cette disposition-là, c'était que les évêques pouvaient accorder la faveur de dire la messe traditionnelle sous des conditions restrictives, qui était un assentiment quasiment de foi divine au Concile Vatican II. Assentiment que requièrent encore les évêques français dans la motion de confiance dont je vous parlais tout à l'heure du 9 novembre au cardinal Ricard. Il persistait encore dans cette requête que les traditionnalistes donnent leur assentiment à Vatican II. Et ça, c'est une condition qui ne tient pas debout, puisque Vatican II, comme l'a dit Benoît XVI, n'est plus du tout à considérer comme un objet d'assentiment, parce que ce n'est pas de la foi divinement et infailliblement énoncée et définie, mais le Vatican II est un objet de réception. Et c'est tout autre chose, c'est-à-dire d'interprétation, de discussion. En attendant une interprétation authentique, sachant que Vatican II n'a pas encore été reçu, c'est ce qu'a répété le cardinal Ricard à Lourdes.
Je vous remercie beaucoup, Christophe Ferré. Voilà. Nous ne nous quittons pas, j'ai encore une question à vous poser. Auparavant, je voudrais prendre une minute pour vous narrer une anecdote que je trouve charmante et qui devrait vous plaire aussi, et qui montre bien que ces questions que vous venez si aimablement de traiter ne concernent pas que les catholiques et pas seulement les gens qui ont la foi. Si on avait écouté Georges Brassens il y a 50 ans quand il chantait « Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces sacrés calotins, sans le latin, sans le latin », nous n'en serions pas là. Ce sont des questions d'identité nationale. Moi, je suis toujours ému et heureux de voir une soutane dans la rue, alors que j'ai complètement perdu la foi, parce que c'est l'identité de mon pays que ça exprime.
C'est la tradition chrétienne, la tradition catholique, en effet, est le fondement de notre civilisation, de notre identité européenne, française, véritable. Et donc, c'est ce qu'a rappelé le pape, d'ailleurs, à Lisbonne.
Et il faut avoir de la gratitude envers les prêtres comme vous, qui l'ont maintenu contre vents et marées pendant des années. Ma petite anecdote, la voici, avant la dernière question. Ça se passe, j'ai appris ça récemment, et je pense pas que vous la connaissiez, dans une toute petite église d'un village de Lyon. Et l'église est par terre parce que pendant des dizaines d'années, il y a eu des francs-macs et des rats-de-soc à la mairie particulièrement radicaux qui étaient très contents, eux qui ne connaissaient pas Georges Brassens, et qui étaient très contents de voir l'église se flanquer par terre. Et puis, un certain nombre d'habitants se réunissent et puis commencent à tirer les sonnettes pour essayer de reconstruire l'église. Rien à faire. Pas un sou de la mairie, pas un sou du département.
C'était des durs.
Et surtout, oui, c'était des durs.
Ils ne sont pas tous comme ça.
Mais ils ne sont pas tous comme ça.
Et pas un sou de l'évêché. Et puis, ça dure plusieurs dizaines d'années, ils remettent, je vous passe les épisodes, ils remettent l'église debout. Et peu avant qu'elle ne soit consacrée, l'évêque d'Auxerre, que je ne nommerai pas, envoie une lettre commandée pour dire « Non, non, l'hôtel est dans le mauvais sens, il doit être tourné vers les populations. » Et alors, les habitants, c'est des pauvres villageois qui ont ramé des dizaines d'années pour réunir des sommes considérables nécessaires. Ils sont dans une détresse terrible, et au dernier moment, ce sont les monuments historiques. Et là, on rejoint ce qu'on disait sur la tradition et l'identité nationale. Ce sont les monuments historiques qui interviennent et qui disent, Monseigneur, qui disent à l'évêque d'Auxerre, Monseigneur, il n'en est pas question, parce que cette église a été restaurée en l'état tel qu'elle a été pendant des siècles.
Bien sûr, l'église a été bâtie pour y abriter le rite traditionnel. Votre anecdote me fait penser à... Il y avait eu des grands académiciens qui s'étaient... levé à l'époque où on a commencé à retourner des hôtels, avant même la nouvelle messe, Je me souviens de Claudel qui avait fait en 55 un article dans l'Aurore à l'époque, ou bien Frossard, André Frossard, le marxiste converti au catholicisme, qui était devenu d'ailleurs un peu ami de Paul VI, mais il avait adressé un libelle aux évêques de France. Il disait « Du jour au lendemain, le fidèle troupeau a vu le prêtre qui officiait en avant de lui, comme à la proue d'un navire devant l'océan, se retourner brusquement pour lui faire face et comme pour surveiller la porte ou l'entrée des barbares, etc. »
Monsieur l'abbé,
c'était très bon.
Christophe Héry, il nous reste à peu près 5 minutes pour lire un message d'auditeur qui vous vise, pour que je vous pose une dernière question et pour que vous annonciez votre colloque. Alors, allons-y.
Parfait.
Monsieur l'abbé Héry, pourra-t-il nous parler de Galilée? Des téléfilms et 2000 ans d'histoire ont fait une attaque anticatholique en traitant ce sujet.
Ah oui, alors, ça c'est un sujet...
Galilée en 2 minutes, allez-y.
En 2 minutes, parce que je prépare un livre qui va sortir bientôt sur le sujet.
Ah, c'est votre maman qui a téléphoné?
Non, pas vraiment, non, ma pauvre maman, non. Mais non, je pense que c'est vrai que j'ai déjà abordé ce sujet par le passé. Disons que Galilée, c'est vrai que c'est une tarte à la crème d'un certain point de vue. Et en même temps, il ne faut pas non plus nier l'histoire. Il a bien été condamné par l'Inquisition. Et ça soulève tout le problème du rapport entre l'Église et la science. Alors on s'est servi de lui comme du martyr de la science, comme si la science avait besoin de héros, comme si elle était une religion. Alors tout ceci, évidemment, si on le laisse se décanter, en une phrase, ce que j'essaye de dire dans mon livre, c'est que Galilée, voulant montrer que la Terre tournait autour du Soleil, ce qui n'était pas une idée de lui, elle était du chanoine Copernic 100 ans avant, défendue aussi par Kepler, le savant protestant condamné par Luther à la même époque, Galilée n'a pas su trouver de démonstration, ni d'argument, ni de preuve. Toutes ses preuves étaient fausses. Scientifiquement, il avait tort, en fait. Et ses adversaires, qui étaient de grands scientifiques, les jésuites, etc., l'oratorien, le père Grassi, ont eu beau jeu de lui dire « mais tu te plantes ». Et donc, cesse de défendre une théorie que tu n'as pas démontrée. Et lui, en revanche, contre l'Inquisition, avait raison théologiquement. C'est-à-dire que
ce qu'on appelle une bataille à front.
C'est ça le paradoxe de Galilée. C'est-à-dire que sur les règles de l'interprétation de la Bible, que l'on croyait devoir réduire au littéralisme, au fondamentalisme, c'est-à-dire au pied de la lettre, hein, le soleil se lève, est-il dit dans la Bible, donc ça veut dire que la terre est fixe et que...
Soleil dormait.
Voilà. Mais vous parlez comme ça tous les jours sans penser pour autant que c'est vous qui êtes fixe et que c'est le soleil qui tourne au-dessus de votre tête. Donc, les règles de l'interprétation de la Bible, qui étaient quand même énoncées par saint Augustin depuis le 4e siècle, ou le 5e siècle, depuis par saint Thomas d'Aquin, tout ceci avait été complètement oublié à cause de l'influence de la réforme protestante qui avait imposé la lecture scrupuleuse du sola scriptura. Donc voilà le contexte qui explique. Et puis après, il y a tous les enjeux très intéressants du rapport entre foi et science, et foi et raison. Et nous ferons un autre colloque là-dessus quand le livre sortira.
Alors Christophe Héry, j'ai encore une question cosmologique à vous poser avec 3 minutes pour répondre. nous parlions tout à l'heure, en commençant, d'écuménisme intracatholique.
Oui.
Je voudrais revenir à l'écuménisme et au fameux discours de Ratisbonne. On en a déjà beaucoup parlé à cette antenne, mais je voudrais revenir sur la question suivante. Les gros médias, toujours à la pointe et toujours à la pointe de l'interprétation, nous ont expliqué, mais on sait maintenant qu'il s'agit d'une provocation de la BBC qui s'est empressée de répandre sur toutes ces antennes étrangères dans les langues des musulmans que Benoît XVI attaquait l'islam. Depuis, le discours a été publié, à ma connaissance, dans le Libre Journal et nulle part ailleurs, et chacun a pu constater qu'il y avait deux mots tout à fait incidents sur l'islam, mais un cours philosophique magistral sur les rapports entre la raison et la raison grecque en particulier,
bien sûr,
et la religion catholique.
Alors
la question, Elle est presque formulée, c'est la suivante. C'est plutôt qu'un coup de pied à l'islam. Est-ce que le discours de Ratisbonne et le demi-russe que je suis comme Serge de Bekech y est très sensible, comme beaucoup de nos auditeurs, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une main tendue à l'orthodoxie et donc d'un immense espoir pour tous les chrétiens?
Écoutez, le dialogue avec les orthodoxes, entre guillemets, ou le rapprochement se fera évidemment par la liturgie, parce que tous les orthodoxes que je connais me le disent, à commencer par l'évêque orthodoxe de Bordeaux, que je croise sur le trottoir parce que j'habite à côté de chez lui, se réjouissent du motu proprio à venir, du rétablissement de la liturgie. C'est le premier point. Et quant à la philosophie grecque, j'y vois moins, si vous voulez, là, dans le discours de Ratisbonne, une main tendue vers les orthodoxes, que un rappel aux Européens de leur identité à la fois grecque et chrétienne, parce que finalement les deux sont liés intimement. Au fond, la tradition, c'est ce que dit Benoît XVI formellement à la fin de son introduction, la tradition catholique, c'est l'alliance de l'intelligence et de la foi. C'est-à-dire que c'est une réponse, un scude qu'envoie Benoît XVI contre la théologie ou la religiosité moderne qui a infesté malheureusement jusqu'aux esprits catholiques, à savoir que la religion serait pas affaire de raison, qu'on n'aurait pas des raisons de croire. C'est ça la théologie au fond issue du modernisme. On n'aurait pas de raison de croire. La foi, c'est un sentiment religieux. Donc c'est subjectif. Et à partir de là, si vous dites que les croyances sont simplement des phénomènes de la conscience religieuse, vous affrontez les subjectivités et vous créez de la violence. Et ce que dit le pape, c'est pour faire cesser les violences religieuses, il faut revenir à l'argumentation, parce que la foi est d'une part fondée en raison, et qu'ensuite, la doctrine sacrée, comme disait saint Thomas d'Aquin, la doctrina sacra, c'est la raison qui travaille sur le donné de la foi et qui en tire des conséquences et des argumentations.
Monsieur l'abbé, Victoria voudrait que vous consacriez les 3 minutes qui nous restent à répondre à un auditeur.
Si je peux, mais je voudrais surtout annoncer le débat, qui est très important.
C'est un commentaire. Donc rapidement le commentaire et ensuite l'annonce.
Si la décision papale de rétablir la messe traditionnelle est accompagnée d'un droit de veto pour les évêques, cela revient à dire que la liberté pour les prêtres qui désireraient cette messe sera nulle, et vous aurez dépensé des heures d'antenne pour rien.
Non, nullement. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que sera ce texte. C'est une rumeur qui a couru, mais je crois que c'est déjà c'est quelque chose, c'est évidemment pas parce que ce qui pourrait nous satisfaire à 100%, mais à partir du moment où l'évêque doit refuser un droit qu'accorde le pape, il se met dans une situation de porte-à-faux vis-à-vis de Rome. Et en plus, il doit motiver son refus, et ce refus peut être contesté par le prêtre qui a demandé à user de ce droit. Parce que si ce motif n'est pas valable, ça peut donner lieu à des procédures. Les évêques vont avoir beaucoup de mal à user de ce droit de veto.
Alors vous allez annoncer. Je dirais simplement que l'actualité religieuse est très chaude ces jours-ci, mais qu'elle n'a pas fini de l'être. Vous reviendrez sans doute. Alors voilà, il vous reste.
Alors
donc
je souhaiterais, je vous remercie beaucoup. Je souhaiterais vivement vous faire part de ce nouveau rendez-vous en rebond, si vous voulez, sur la mutualité qui a eu lieu lundi soir. Cette fois-ci, c'est une rencontre universitaire, justement, foi et raison. Sans le dire, c'est dans le sillage du discours de Ratisbonne que vont se placer ces rencontres. Il y en aura d'autres. Le thème, célébration liturgique, tradition ou mutation. Alors, ça se passe le 2 décembre, samedi 2 décembre, de 9h30 à 18h à l'espace Montcassin, c'est 164 rue de Javel, à Paris. Vous pourrez rappeler la rédaction de Radio Courtoisie. C'est un colloque ouvert à tous, et nous aurons la joie d'accueillir une série d'intervenants hautement qualifiés, des historiens spécialisés dans l'histoire de la liturgie, le professeur Philippe Bernard, de l'université d'Aix-Marseille, le professeur Alain Rowell, également professeur d'histoire médiévale, à l'université de Bourgogne. Et nous aurons l'abbé Tannoirne, le professeur Dominique Millet-Gérard, professeur de littérature à la Sorbonne. Parmi les ecclésiastiques, nous aurons l'abbé Pépineau, un prêtre du diocèse de Lyon, qui fait une thèse de doctorat sur le mouvement liturgique et le CPL, le Centre Pastoral de Liturgie, dans les années 43 à 63. Moi-même, je parlerai de ce que j'ai nommé la théologie de la célébration. Et puis, nous aurons, en conclusion, le père Lang, le père Michael Lang, qui présentera pour la première fois à Paris son livre qui s'intitule « Se tourner vers le Seigneur », ce que vous évoquiez tout à l'heure, livre préfacé par le pape lui-même. Et c'est la première fois donc qu'il est traduit en français. Le père Lang est prêtre de l'oratoire Saint-Philippe-Néry de Londres et dirige le Ciel et les congrès d'Oxford sur le sujet. Donc, vous voyez, rendez-vous très important.
Voilà, la date et l'heure, et il faut qu'on enchaîne.
2 décembre 2006, de 9h30 à 18h, à l'espace Montcassin, rue de Javel, à Paris.
Nous vous remercions de tout cœur, monsieur l'abbé Christophe.
Il y a un parking.
Il y a un parking, très bien. Merci, monsieur l'abbé Christophe Ferry. Dans quelques instants, nous retrouvons le docteur d'or pour 10 minutes entières, ça le changera. Une petite coupure musicale, je vous invite à y prêter l'oreille. Serez-vous d'accord, monsieur l'abbé, avec Maurice Chevalier? Contre l'amour, il n'y a rien à faire. Je dédicace toujours pas à Serge de Beketch, mais encore à elle.
Contre l'amour, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire contre l'amour. Quand il vous tient, ce mal qui court. Ce mal qui court, quand il vous tient bien. Pour avoir l'air, on se donne l'air. On se donne l'air de ne pas avoir l'air. Contre l'amour, on a son amour propre. Mais l'amour propre, contre l'amour, ça ne sert à rien, rien, rien. On vous dira l'air détaché, l'amour, moi ça me fait ricaner. On vous dira l'amour c'est des histoires, les histoires faut pas les croire. De quoi, regardez-moi, allons on en met des fois contre l'amour. Car rien à faire, y'a rien à faire contre l'amour. Quand il vous tient, ce mal qui court, ce mal qui court, quand il vous tient, oh il vous tient bien, qu'on soit connu. Ou inconnu, faut pas tenter de vouloir dire non, car nom de nom, on est tous au même point. On le sait bien, contre l'amour, on ne peut rien, rien, rien. Contre l'amour, y a rien à faire, y a rien à faire contre l'amour. Quand il vous tient. Ce mal qui court, ce mal qui court, quand il vous tient bien. Il y a des jours où ça fait mal, mais c'est si bon d'avoir le mal d'amour. On voudrait bien le garder pour toujours. Oui, mais voilà, avec l'amour, on ne sait rien, rien, rien.
Vous écoutez Radio Courtoisie, vous avez bien raison, on est bien sur Radio Courtoisie dans le monde entier, hein, sur radiocourtoisie.com. Nous recevons, je reçois le docteur d'or, et contrairement au cruel Serge de Beketch qui le squeeze toujours en 3-4 minutes, je lui donne moi 10 minutes docteur, je crois que vous avez besoin de ces 10 minutes parce que vous venez de mener une véritable campagne, j'ai vu vos annonces, dans 30 villes de France différentes, quelle campagne, pourquoi faire là, j'ai perdu un peu le fil, mais voilà. Je tiens à vous dire, avant de vous laisser la parole, que moi qui suis personnellement pour l'avortement, je commence à me poser des questions quand je vois que la mode maintenant c'est l'avortement au 23e mois de grossesse.
Oui, ça. Vous allez y réfléchir, je pense. Voilà, c'est notre 20e anniversaire. Et à cette occasion...
SOS tout petit.
SOS tout petit, oui, je précise. Et c'était l'occasion, finalement, de manifester, non pas à Paris, mais un peu partout en France. Et d'ailleurs, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'en Belgique, il y a aussi des prières. Ils étaient pas très nombreux, je crois, 30, mais quand même 30 devant le devant la cathédrale de Bruxelles. Et puis, on manifestait, ça, je ne sais pas exactement, à Radio Maria, à Torun ou Varsovie. Et là, alors, ils ont pris, là, je crois, j'ai pas pu avoir le lien, mais ils m'ont dit que ce serait fait.
Une énorme radio polonaise.
Une énorme radio polonaise qui a plusieurs millions d'auditeurs. Ils ont annoncé notre manifestation au moment où nous la faisions. Et puis, en Suisse aussi, nous avons des amis. Et puis, alors, chose la plus surprenante, au Mexique aussi. Alors là, il y a une prière à la basilique de Notre-Dame de Guadalupe, au nord-ouest de Mexico. Il y avait, enfin, dans cette partie nord-ouest de la ville. Et puis, dans le nord du pays, à Culiacán. Et alors là, c'est assez amusant parce que notre correspondant parlait d'un demi-million de Mexicains. Alors là, je ne sais pas si il faut accorder un crédit complet à ce demi-million, mais enfin, voilà, c'est assez. Nous n'avions pas seulement une dimension nationale. Alors, la dimension nationale, eh bien, dans 30 villes différentes, depuis Paris jusqu'au le petit village de Varzy dans la Nièvre, où il y a eu, je crois, 12 participants, eh bien, nous étions plus nombreux dans d'autres, évidemment. À Paris, on était plus de 200, 250 peut-être. Et à le fleuron, c'est Nantes, puisqu'ils étaient plus de 300. Enfin, plus de 300. Ça s'est très bien passé. Bon. Et je vous donne quelques chiffres. 110 à Poitiers, ça c'était remarquable. C'est la première fois qu'on manifestait à Poitiers. 110 à Laval, où paraît-il deux petits Mongoliens menaient la danse, si je puis dire. C'est eux qui priaient, enfin, tout au moins à un moment. Il y a eu 150 à Lyon, je cite ça rapidement. 100 à Marseille. Voilà. Mais alors, il y a une chose que je voudrais dire, c'est dans certaines villes une opposition, mais je dirais même féroce. Et la plus terrible, là je me suis renseigné avec j'étais à Paris évidemment, place Saint-Michel, mais ça s'est passé donc à Grenoble, devant l'hôpital de la Tronche. Là, il y avait surtout des drapeaux rouges. Combien? Tiens. Je ne peux pas vous dire rouge.
Parce que d'habitude, docteur, vous avez surtout affaire aux anarchistes.
La CGT, oui.
Et alors,
c'est plutôt les drapeaux noirs.
Et alors,
là, on m'a dit, enfin, c'est les drapeaux rouges. Là, on peut s'étonner, quoique la CGT à Valence, c'est eux, je voyais les gens qui nous tapaient dessus, je dirais, marqués CGT, en disant que c'était nous les violents. C'était assez curieux. Ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Bon, et là, c'était les drapeaux rouges. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on ne pouvait pas voir, mais en se penchant un peu, en se dressant un peu, peut-être, on aurait vu au milieu, d'après ce que j'ai compris, ils étaient 20 à 40, je n'ai pas su exactement le chiffre. Ils étaient là, ils priaient autant qu'ils pouvaient, certains étaient à genoux. Et alors, tenez-vous bien, il y avait deux prêtres, et deux prêtres en soutane. Ces prêtres étaient de la Fraternité Saint-Pédis. Et alors, je tiens ici à rendre hommage à ces prêtres et à la fraternité. Parce que franchement, être là au milieu des colibés, parce que non seulement ils étaient tout autour en les encerclant, mais encore il y en avait au milieu d'eux, et notamment des femmes, des hommes qui passaient devant tout ce petit groupe avec des objets obscènes, enfin des colibés.
Je crois que Jésus, permettez une insiste, docteur, je crois que Jésus vous a prévenu il y a déjà 2000 ans,
vous serez moqué. Et là, je dirais, c'était vraiment ça. Il n'y a pas eu de coup. Ça, c'est déjà ça. Il y avait trois policiers en tenue, ce qui est déjà ça, vous me direz. Et ils ont donc, les organisateurs ont téléphoné à la police pour prévenir que c'était dangereux, qu'il n'y avait pas de liberté d'expression. Il y avait tellement de bruit que... Alors, ceux qui étaient là s'accrochaient à leur chapelet. Et alors, j'ai cru savoir que le responsable de cette région de Grenoble, enfin, de la police, est communiste. Ce qui expliquerait certaines choses.
Mais à ce propos, on entend parler de manifestations communistes avec 50 organisateurs qui rassemblent moins de monde que les vôtres. Alors, vous êtes SOS tout petit devient un mouvement de masse.
Oui, alors, je dois dire...
Je rêve.
Mais vous savez, comment dire, leur sacrifice, si je puis dire, a été entendu du Dauphiné libéré. Internet a explosé, si je puis dire, et même chez les gauchistes. Donc, je dirais, on en a parlé. Et il n'y a rien de pire que le silence. Je dis souvent que, la, que le silence est pire que l'avortement lui-même, puisqu'on tue l'enfant deux fois, la première fois dans le sein de la mère, et la deuxième fois dans les consciences. Et alors, il y a une autre, mais presque à l'inverse, c'est très curieux, à Caen. Caen, à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils étaient 200, 300 à l'extérieur, je ne sais pas, ils étaient peut-être le même chiffre à l'intérieur, et que se passait-il? Alors là, c'est ça pourquoi je parle de l'inverse, il y avait un prêtre. Alors, à l'intérieur même de notre petit groupe, enfin, je n'y étais pas, mais on me l'a dit, évidemment, ce prêtre était en civil, personne ne savait que c'était un prêtre, il priait avec tout le monde, mais quand il y a eu une dissolution, d'ailleurs, qui a été très rapide, parce que la police poussait beaucoup à la... C'était dangereux, évidemment, poussait beaucoup à la dissolution du mouvement, eh bien, le prêtre s'est tourné vers le colonel Letondo, qui conduisait le petit groupe, et il a dit, je suis prêtre de la région de Caen, mais je n'ai pas prié pour les mêmes intentions que vous. Et je pense qu'il a prié pour le droit des femmes. Et alors, c'est incroyable. Et alors, ça me rappelait tout à fait quelque chose, enfin, de semblable, un petit peu différent, mais au fond, les mêmes choses, à savoir que nous étions, je crois que c'était en 94, devant le CHR Georges Clémenceau, nous étions 40-50, on priait, agenouillés, il y avait des blasphèmes en face, des cris, tout ça. Et il y avait, dans ce groupe, en tout cas, je ne sais pas si les prêtres étaient là, mais il y avait un manifeste que nous étions dans les mains. Ce manifeste était signé par 28 prêtres dont nous avons les noms et dont le deuxième actuellement se trouve d'ailleurs en prison, le malheureux. Eh bien, ils avaient écrit sur ce manifeste qu'ils avaient donc signé de leur main et ils avaient signé qu'ils s'opposeraient groupe de Caen et de la région de Caen, même pas de tout le diocèse de Bayeux-Lisieux, qui s'opposeraient à toute régression du droit des femmes. Alors je dirais, là, il y a vraiment un retour. On retourne l'autel, mais on retourne aussi les prêtres. Je dirais, ça, c'est... Enfin, c'est...
Je vous remercie, docteur, parce que là, vous faites une espèce de synthèse, finalement, de toute cette partie de l'émission avec l'abbé Herry, oui. Et donc de son aspect civilisation et culture. Je vous remercie bruyamment, parce que le moment est venu,
je vous assure, c'est impressionnant.
De parler de l'avenir. Et de l'annonce, oui, que vous avez à faire, sur quoi...
Ah, c'est déjà fini.
Et oui, le temps passe vite, et donc je vous demande de faire votre annonce.
Alors,
rapidement.
Notre annonce est celle-ci, c'est que bien sûr nous continuerons nos manifestations, les gens de Nantes iront à Caen, les gens de Lyon iront à Grenoble, on peut pas rester comme ça. Notre annonce est donc, c'est la poursuite des manifestations, l'extension de ces manifestations, et peut-être encore davantage, donner ce que nous faisons à Paris le plus souvent, toutes les semaines, sans faire période scolaire, en période de vacances, pardon, nous donnons nos tracts, c'est pas toujours facile, devant les collèges, les lycées, les facultés. Alors nous avons une date le 16 décembre, place Saint-Michel, venu aussi nombreux que la dernière fois et même davantage.
À quelle heure,
docteur ? À 14h30, place Saint-Michel, il y a un monde fou qui passe, on a de quoi distribuer, évidemment, on prie, on distribue. Et puis, il y a alors le 21 janvier, ne manquez pas ça, venez en quart de Nantes, venez de partout, ça c'est national, il y a 12 associations. On va défiler.
C'est la marche pour la vie.
C'est la marche pour la vie, bien entendu. Alors là, c'est de 14h30, rassemblement à la République, et ensuite, à 17h30, je crois, à l'Opéra.
On en reparlera, mais il faut retenir cette date du 21 janvier. C'est une marche qui a eu un succès massif de plusieurs milliers de participants. Voilà. Merci, docteur.
J'ajouterais que là, nous avons eu aussi, je crois, 1900 participants. Je dirais, c'était peut-être plus qu'à la mutualité.
Félicitations.
Merci.
Merci, docteur. Je passe la parole à Victoria, avec laquelle je vais alterner, je crois, une bonne dizaine d'annonces. Il nous reste 5 minutes pour ça, Victoria.
Activons. Samedi prochain, 25 novembre, de 15h à 18h30, Jean-Pascal Cerbera dédicacera « Docteur, vous me soignez mal » à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Le Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, Paris 2e, vous invite à la conférence de Jean Castriot sur le thème « Constantinople, histoire de 10 siècles entre islam et chrétienté » le mardi 28 novembre à 20h.
C'est à moi. Si Serge de Beckett vous a manqué ce soir, retrouvez-le dans son nouveau livre « Le catalogue des nuisibles ». 25€ pour compris, chèque à l'ordre de Serge de Beckett, 4 place France List, 75 010, Paris.
Mercredi 29 novembre, au Palais de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, dans le 5e, à 20h, Monsieur l'abbé Laurence donnera des nouvelles de l'actualité religieuse et Xavier Martin traitera de Voltaire méconnu, aspect caché de l'humanisme des Lumières, 1750-1800. Le prix d'entrée, c'est 5 €, et pour les étudiants, 3 €. Alors, ça c'est compliqué, le vendredi 1er décembre à 20h, chez La Mer Agitée, 21 rue Campagne Première, Paris 14e, soirée Éric Satie, conférence sonore et visuelle suivie d'un dîner, Éric Satie du Chat Noir au Théâtre des Champs-Élysées, le parcours atypique d'un célèbre méconnu. Il faut absolument vous inscrire au 01 43 35 56 64. Je pense que j'ai tout dit.
Un autre livre, en librairie, depuis quelques jours, notre ami Éric Lebec publie « Ces hommes qu'on dit chasseurs » aux éditions de Paris. Oui, c'est bien ça, les éditions de Paris. « Ces hommes qu'on dit chasseurs », je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. À vous, Victoria.
Alors, pour commémorer le 450e anniversaire de la mort d'Ignace de Loyola, le Forum de la France chrétienne présente le vendredi 1er décembre à 20h30 l'itinéraire d'un pèlerin, Ignace de Loyola, par le Théâtre du Regard. Ça se passe à la crypte du Martyrium Saint-Denis, 11 rue Yvonne Le Tac, dans le 18e. Métro Abbesse, prix des places 8 €. Et renseignements, france.chretienne@free.fr et téléphone 08 75 28 29 15. Enfin, communiqué de la 15e fête du livre de Renaissance catholique à l'occasion de Noël aura lieu le dimanche 10 décembre de 11h à 18h. La réunion se déroulera dans le superbe cadre de Grand Maison à Villepreux, dans les Yvelines, à 20 km à l'ouest de Paris. Une navette de car gratuite est au départ de la gare SNCF Versailles-Rive-Gauche, 10h15, 13h30, 15h, retour assuré. Renaissance catholique, vous pouvez téléphoner à 01 46 62 97 04 ou envoyé sur le site renaissancecatholique.org.
Merci Victoria. Une toute dernière annonce. Samedi prochain, 25 novembre, non, c'est pas la dernière.
Oui.
Bon, alors vous enchaînerez derrière moi et vous aurez le mot de la fin, comme ça ce sera tout à fait charmant. Donc ma dernière annonce, c'est samedi 25 novembre prochain, de 14h à 19h à la mairie du 5e, bon tout le monde la connaît, place du Panthéon. Il y aura le 76e après-midi du livre des écrivains combattants. C'est organisé par d'excellents amis, une excellente librairie, la librairie Murat, qui est boulevard Murat, comme Radio Courtoisie, comme son nom l'indique, juste à côté de la porte Saint-Cloud. Donc, obligation de présenter l'invitation. Bon, je pense que vous passerez quand même sans invitation, hein, si vous pouvez pas vous la procurer. Samedi 25 après-midi, mairie du 5e, livre après-midi des écrivains combattants. Excusez-moi de bredouiller, je suis troublé parce que je dois vous laisser la parole pour conclure.
Mais c'est pas tout à fait une conclusion, puis on a encore le temps, on a
trois minutes devant
nous.
Je regarde la mauvaise pendule,
on
apparemment.
On a toujours peur. Alors, bon, je ne sais pas, de nombreux auditeurs nous ont demandé l'adresse de M. Rondeau. Le téléphone où vous pouvez l'appeler, c'est le 01 44 51 62 20. Et puis pour lui écrire, c'est Mégara Finance, 9 Place de la Madeleine, 75 008 Paris.
Une belle adresse.
Allez-y, pardon.
Et on peut rappeler que le 2 décembre, de 9h30 à 18h, célébration liturgique, tradition et mutation, ça se passe à l'espace Montcassin, 164 rue de Javel, dans le 15e. C'est un colloque ouvert à tous.
Bien, alors je vous remercie, Victoria. Je remercie nos intervenants encore présents, monsieur, par ordre. J'ai failli parler d'ordre hiérarchique en m'apercevant que je mettais l'autre entre l'herbe et l'écorce. Alors pas d'ordre hiérarchique, dans le sens des aiguilles d'une montre. Monsieur l'abbé Christophe Ferry, Jean-Pierre Rondeau, notre expert financier indépendant, le docteur Dor. Et donc, nous allons dans quelques minutes retrouver Bernard-Anthony Richard Haddad avec, je crois, Trajan Smith et d'autres intervenants qui vont revenir longuement sur l'actualité la plus chaude de la journée, la crise de plus en plus dramatique au Proche-Orient et en particulier l'assassinat de Pierre Gemayel et les interprétations géopolitiques qu'il convient d'en tirer. Merci, que Dieu nous garde. Si Dieu nous garde bien, nous retrouverons Serge de Bekesh à ce micro mercredi prochain.
Merci de passer la soirée en notre compagnie sur Radio Courtoisie à 21h tout à l'heure. Rendez-vous avec Claudio pour les soirées musicales. Le programme La discothèque pour connaisseurs et amateurs avec Martinou et la fantaisie concertante par Kubelik en 66. 22h les musiques de films et 23h les grands pianistes. Ce soir vous entendrez du Rossini interprété par Chantal Rigu. Puis tout de suite la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekesh. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekesh avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 22 novembre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 23 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Chers auditeurs, bonsoir. Bernard Anthony au micro, comme Patrick Goffman, vous l'avez tout à l'heure annoncé, m'ayant déjà donné un peu la parole sur un sujet dont nous allons débattre. Bien entendu, j'espère que Serge, qui nous écoute, va un peu se reposer. Ce sont les conseils que je lui donne. Il ne va pas si mal, je vous rassure tout de suite, mais il y a des moments où il en fait trop. Et puis, je suis bien placé pour savoir que ce genre de procès, c'est particulièrement tout de même irritant, accablant, fatigant. Et naturellement, dans l'affaire qu'il oppose à quelqu'un que je ne saurais qualifié, nous sommes entièrement avec lui. Serge fait un travail de salubrité publique en utilisant quelquefois les mots qui ne sont pas du conformisme de notre temps. Bien, il a raison, il est de cette grande race de polémiques qui savent trouver les adjectifs qui conviennent pour désigner certains personnages. Voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est pas utile que moi aussi je me retrouve sur le banc à côté de lui. Ça n'ajouterait rien pour le succès. J'ai eu mon lot de procès, n'est-ce pas Frédéric Pichon ?
Je serai là pour vous défendre.
Voilà, de toujours l'avocat, hein, qui est bien... Eh bien, justement, ce soir, chers auditeurs, nous avons Cécile Montmirail, journaliste, vous la connaissez, Jeanne Smith, directeur de présent. Bonsoir, Jeanne. Cécile va bien, mais Jeanne, elle rentre de Rome, elle va nous parler de son voyage romain.
Hein, c'était très beau, comme toujours, mais c'était surtout très intéressant pour les combats que nous menons.
Alors, on va y venir. Je n'oublie jamais que je m'appelle Bernard Romain-Marie-Anthony et c'est ma fibre que cette ville de Rome. Et puis, alors, un petit saut dans la Méditerranée, plus loin. Et là, ce soir, on est content d'avoir Richard, mais on aurait préféré ne pas l'avoir pour ce dont nous allons débattre. Richard Haddad, militant infatigable de la cause chrétienne en France et au Liban. Bonsoir Richard.
Bonsoir Bernard.
Et puis Frédéric Pichon, vous le connaissez, voilà, et David Fonté de Volksgallier, vous le connaissez aussi maintenant à l'émission de La Réplique.
Bonsoir.
Voilà, alors une actualité donc très très riche, très fournie, au cas où j'oublierai parce que je me méfie, nous avons au Centre Charlier la semaine prochaine, jeudi 30 novembre, mon excellent ami Henri de Lesquin, président de la Voix des Français, président du Club de l'Horloge et qui joue aussi, je crois savoir, n'est-ce pas, un grand rôle à Radio Courtoisie dans la succession de Jean Ferré, que j'ai évoqué moi aussi, donc Henri de Lesquin a 19h, il nous parlera de la conférence de Ratisbonne qui sera sans doute un moment de l'histoire. Il va apporter là son regard de penseur et de scientifique puisque cette conférence donc était sur la foi et la raison. Et j'ai pensé, Henri de Lesquin, ayant la liberté de son sujet, m'a proposé de parler de cela et je crois que c'est très bien. Et je suis sûr qu'avec lui, ça sera un débat de très haute tenue, de très haute valeur intellectuelle. Et d'ailleurs, nous l'associerons à ce que nous prévoyons, n'est-ce pas Jeanne, cette édition de la conférence de Ratisbonne, avec les articles de nos meilleures têtes, si je puis dire ainsi, David Mascré, Jamad Diran, Don Gérard et d'autres encore, Henri de Lesquin et Olivier Figueras du journal Présent et Jeanne Smith. Mais voilà, arrêtons-nous là pour l'instant. Eh bien, je vais maintenant laisser la direction des choses pour procéder au questionnaire, parce que je pense que je vais être parmi les questionnés. Alors, on ne peut pas être l'un et l'autre, et je laisse la direction de l'opération à Cécile Montmirail. Les autres peuvent intervenir, bien sûr, aussi.
Alors, nous abordons d'abord ce soir la terrible question du Liban, puisque, hélas, nous avons appris hier l'assassinat de Pierre Gemayel en plein cœur du quartier chrétien de Beyrouth. Nous avons donc ce soir Richard Haddad à nos côtés pour en parler. Richard, vous êtes un ami de Pierre Gemayel. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie cet assassinat?
Oui, je suis un ami de Pierre, mais de toute la famille Gemayel en fait. Nos deux familles sont liées. J'étais très proche de son père. Je suis toujours très proche de son père Amine, que j'avais fait inviter à Radio Courtoisie d'ailleurs lorsqu'il vivait à Paris en exil. Et je suis toujours très ami avec son frère Samy et son cousin, le fils du président Béchir Gemayel, Nadim. Donc cet assassinat signifie que deux choses. Premièrement, on veut éliminer un ministre. Je pense que Bernard reviendra sur les détails politiques de cette affaire. Parce qu'il faut le rappeler, Pierre Gemayel, 34 ans, était ministre depuis 2 ans. Ministre de l'Industrie et député depuis 6 ans. Plus jeune ministre et plus jeune député du Liban. Et on veut éliminer un ministre et on veut éliminer surtout la relève dans la famille Gemayel qui a son symbole au Liban, qui représente quelque chose dans la communauté chrétienne.
Alors il y a beaucoup de ministres dans le gouvernement actuel du Liban. Il y a plusieurs ministres chrétiens. Pourquoi avoir choisi Pierre Gemayel?
Je vous le dis, c'est parce que alors, il faut savoir très brièvement que on veut faire chuter ce gouvernement. Pour cela, il faut 9 ministres. Il y en a 6 qui ont démissionné. Il en reste 3 à éliminer. Et le reste ne veut pas démissionner. Alors, il faut les tuer. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Quand on n'arrive pas à faire chuter un gouvernement démocratiquement, eh bien, on tue les ministres. Alors, pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Je vous l'ai dit, parce qu'il y a d'autres ministres qui sont des techniciens ou des chrétiens, mais qui viennent de la société civile, ou bien qui sont des députés, des hommes politiques indépendants, qui ne représentent pas un symbole, un courant. Pierre Gemayel, d'abord, il porte le nom de son grand-père. Pierre Gemayel, fondateur des phalanges libanaises, c'est tout un symbole au Liban. La guerre civile, mais pas seulement celle de 75, mais aussi celle de 58, c'est le symbole de la lutte contre le nationalisme arabe, les phalanges libanaises. C'est le nationalisme libanais intégral. Et Pierre Gemayel, 34 ans, avec son frère et son cousin, Nadim, sont la relève. Et donc, d'ailleurs, je crains le pire pour son frère, pour son jeune frère et son cousin.
Quand vous dites, oui, Jeanne, vous voulez
oui,
dire
à propos de ces ministres qu'on cherche à éliminer, le même jour, quelques heures plus tard, un autre ministre chrétien a été directement visé dans son bureau et il a eu des coups de feu qui n'ont pas abouti.
Oui, en fait, c'était plutôt de l'intimidation. C'est-à-dire que le ministre Pharaon, qui est un député de Beyrouth grec-catholique, qui est un indépendant, a eu ses bureaux mitraillés dans l'après-midi, le jour même, à Ashrafieh. Alors c'était plutôt de l'intimidation, je vous assure que si on voulait le tuer, on l'aurait tué. D'ailleurs, j'en profite pour préciser quelque chose, c'est que tout cela se passe en plein après-midi. Pierre Gemayel a été assassiné, et ça aussi je tiens à le souligner, c'est une première au Liban. D'habitude, on assassine en mettant des voitures piégées. Là, on l'a bloqué dans son fief, dans sa voiture. On est descendu lui mettre une rafale à bout portant. C'est un message aussi. C'est un message d'intimidation. Ça veut dire qu'on te tue chez toi, à visage découvert, en plein après-midi. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, où on veut. Et l'armée s'est déployée dans Beyrouth, nous dit-on, de façon imposante. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un est assassiné depuis 2 ans, on nous dit l'armée s'est déployée. On se demande pourquoi elle ne se déploie pas avant que l'on assassine des gens. Et donc l'armée se déploie, et 2 heures plus tard, on mitraille les bureaux du député Pharaon. Je pensais que l'armée était déployée. Alors ceux qui ont mitraillé ces bureaux se sont volatilisés comme ça. À Beyrouth, on se balade dans Ashrafieh, on tire des rafales, et on se volatilise, bien que l'armée est déployée partout, et on n'attrape jamais personne, tiens donc.
Et comment se fait-il
Il se fait qu'il y a des complicités dans l'armée, dans les services de renseignement. Il se fait que ces hommes politiques qui sont tués ou intimidés le sont par des gens au pouvoir, qui sont des pro-syriens, qui sont les agents de la Syrie et qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que l'armée est impliquée, c'est-à-dire que les complicités sont partout.
Et pourtant, Richard, lorsqu'on en discutait tout à l'heure, vous nous disiez que la moitié de l'armée était chrétienne.
Oui.
Alors comment se fait-il que des chrétiens vont assassiner d'autres chrétiens?
Ah, non, il faut savoir qu'au Liban, tout est coupé en deux. C'est-à-dire qu'il y a autant de députés chrétiens que de députés musulmans, ainsi que de ministres. L'armée aussi, les fonctionnaires aussi. C'est la discrimination positive, si on peut dire. Mais dans l'armée, il y a la grande majorité des chrétiens, qu'ils soient, ne parlons pas de l'électorat, là, c'est l'écrasante majorité de la population chrétienne, et du bon côté, si j'ose dire. il n'empêche que dans l'armée, il y a des éléments chrétiens pro-syriens. Vous savez, hein, les traîtres, ça arrive. Bien sûr, il y en a toujours eu. Il y en a. Il y a aussi des partis politiques. C'est un peu trop compliqué pour entrer dans les détails. Il y a des partis politiques qui ont toujours existé, comme le PSNS, qui est le Parti National Socialiste Syrien, qui était fondé par un chrétien, qui est un parti pro-syrien ouvertement. Donc il y en a. Ils sont ultra minoritaires, mais il y en a. Le président de la République libanaise, Emil Lahoud, est un chrétien pro-syrien, notoire, pro-Hezbollah, etc. Donc il y en a toujours eu, c'est pas nouveau.
Donc ce que vous nous dites, c'est que le fait qu'on ait pu tuer un ministre chrétien dans le quartier d'Achrafieh, je rappelle pour les auditeurs que c'est le
dans
quartier...
Dans la banlieue nord de Beyrouth, dans son fief, Jdeid, qui est une banlieue nord de Beyrouth, qui a toujours été le fief d'Amin Gemayel, et maintenant c'est de Pierre aussi, évidemment, qui est le successeur de son père.
Je me tourne deux minutes vers Bernard Anthony. Bernard Anthony, la semaine dernière, vous étiez au Liban. Vous avez passé, je crois, une dizaine de jours au Liban. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état vous avez trouvé le Liban et comment et quelle personnalité vous avez rencontrée?
Oui, en deux minutes, c'est un peu difficile, mais je pense qu'on pourra hacher par des questions. Sinon, je voudrais dire en préambule quelque chose. Je reviens à votre question immédiatement après Clarisse. Un auditeur nous écrit ceci, et je tiens à lui répondre, même si ce qu'il nous dit n'est pas très très gentil. Quel dommage qu'un Gemayel ait été assassiné, car nous allons subir encore de longues minutes pénibles d'une émission baratin sur le Liban. Alors, à cet auditeur, je voudrais dire ceci. C'est que, moi, je peux bien comprendre des Français qui disent, bon, ce qui se passe ailleurs dans le monde, ça nous est égal. Mais manque de peau, ces Français pourront toujours se réfugier un jour dans une réserve en Auvergne, quelque part. Mais ce qui se passe dans le monde rejaillit sur la France et réciproquement. Alors, le Liban est au centre d'une zone tellurique d'affrontements millénaires. Aujourd'hui, c'est la région qui ne pèse pas le plus dans le monde sur le plan économique, mais qui ne le voit. Hein. C'est la région à partir de laquelle peuvent partir des conflits dramatiques. Alors, je n'invoquerai pas le sentiment. D'abord, nous sommes liés au Liban par un millénaire d'histoire commune. Nous y sommes liés par l'aide que les... Il y a 1000 ans, on dira c'est du baratin historique, mais l'histoire pèse, le passé pèse sur l'identité d'un peuple. Alors, nous sommes liés effectivement par des liens culturels, historiques, mais aussi le Liban a été une France d'outre-Méditerranée. Et enfin, je voudrais dire qu'au Liban, il y a par exemple une organisation qui s'appelle le Hezbollah, qui existe à Paris. Qu'au Liban, il y a des forces qui existent à Paris, et que le Liban est tout simplement le laboratoire de ce qui pourrait bien se passer chez nous, car nous y sommes déjà. Hein. Donc les zones de non-droit, c'est comme cela que la guerre au Liban a commencé. Voilà pour répondre à cet auditeur. Alors je ne sais pas si c'est une émission baratin. Ce que je sais, c'est que la paix du monde passe par là. Et je voudrais donc commencer par la dernière impression que j'ai eue en quittant Beyrouth il y a quelques jours avec mon ami François Ferrier, conseiller régional de Lorraine, et Catherine Renoux. C'était une impression fort triste. D'abord parce que, effectivement, Samir Jaja, que j'ai retrouvé une journée entière, hein, ça ne nous était pas arrivé depuis 12 ans, donc je m'avais dit, Bernard, tu sais, ils vont tuer. Ça va commencer à nouveau. Il faut qu'ils éliminent. Et Richard a dit les raisons tout à l'heure pour lesquelles il fallait tuer. J'ai vu Solange Gemayel. C'est une amie de longue date. L'épouse de Béchir Gemayel, le président assassiné. L'assassinat de Béchir, le Liban ne s'en relève pas. Mais peut-être que la paix dans le monde ne s'en relèvera pas. Alors d'abord, ces amis-là, qui sont en charge d'une grande partie de la destinée du Liban, savaient que des attentats auraient lieu. Alors ensuite, évadons-nous de l'anecdote et essayons de comprendre ce qui se passe. Et puis je dois dire aussi, j'ai vu des officiers français. Et je n'oublie pas qu'au Liban, sont morts des parachutistes français, sont morts des militants nationalistes français, avec les Kataeb, tel Stéphane Zanettaci, qui fut mon ami, militant solidariste. Bon, mais ça, c'est le sentiment. Alors passons à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons là, donc deux pays... dont je n'avais d'ailleurs jamais longé la frontière, le Liban et Israël. Grâce au chef de l'armée libanaise, le général Sleiman, qui a été très courtois, j'ai pu longer toute la frontière avec Israël. Ce qui était très intéressant parce qu'aucun journaliste n'était autorisé à cela. Et puis j'ai rencontré aussi, mais je ne citerai pas qui, des soldats français en poste là-bas. Et j'ai essayé de comprendre. D'abord, quand je vais dans un pays, je me débarrasse de tous mes a priori. J'essaie, ce n'est pas Bernard Anthony, le militant que l'on connaît, qui vient. Je mets tout ça dans ma poche, je regarde les faits. Et ensuite, quand on a regardé les faits, ensuite on essaie de les comprendre et de les interpréter. Alors, qu'est-ce que j'ai vu au Liban? J'ai vu au Liban un pays cassé, bien sûr. Un pays cassé, grosso modo, en deux blocs aujourd'hui. Ça n'est pas un bloc chrétien contre musulman, ça n'est pas la vérité, c'est trop facile de dire cela. C'est un bloc pro-syrien contre un bloc anti-syrien. Parce que nous sommes là dans une vieille dialectique. Bien, alors dans le bloc syrien, il y a nos amis de toujours, la résistance chrétienne pour l'essentiel, mais qui est soutenue aussi, car le Liban a toujours été un jeu d'alliance des minorités. Il n'y a plus de majorité, aucune alliance des communautés, par les sunnites qui s'inquiètent de la poussée chiite, ça ce sont les divisions dans le monde musulman, et puis les druzes qui ne sont pas nombreux, mais qui ont toujours joué un rôle très important dans l'identité libanaise. Alors donc un bloc anti-syrien et puis un bloc pro-syrien avec essentiellement le Hezbollah. Alors qu'est-ce que c'est que le Hezbollah? Ça veut dire le parti de Dieu. Le Hezbollah n'est pas un parti inféodé à la Syrie. Il est un parti qui joue avec la Syrie parce qu'il a besoin du passage syrien pour les armes qui viennent d'Iran, mais c'est un mouvement sous contrôle iranien. Donc là, on voit dans le Liban, dans la partie sud, où est le Hezbollah essentiellement, il n'y a pas que du Hezbollah, il y a aussi des chrétiens dans le sud du Liban, mais on voit les portraits d'Ayatollah Khomeini, etc. C'est donc un islamisme dur. C'est un parti islamo-stalinien, et qui veut... C'est un parti messianique qui veut de la République islamique universelle. Je tiens tous les textes à disposition. Il y a comme cela, chez nous, des gens qui croient qu'on peut faire ami-ami. Mais ils confondent la politique que François Ier ou Louis XIV pouvaient mener avec l'Empire ottoman avec, aujourd'hui, les véritables enjeux dans le monde. Donc, quelle est la situation? Un Liban, donc, sous contrôle d'une grande partie, donc un parti formidable, car il encadre toute une population, c'est un parti totalitaire, avec des guerriers, que les Israéliens, d'ailleurs, n'ont pas su appréhender. C'est un immense échec israélien, je le disais dans une autre émission, et cela aussi nous touche de très près, voyez les répercussions dans le monde. Les officiers français que j'ai rencontrés m'ont dit, les Israéliens croyaient avoir affaire à des Palestiniens habituels, ils croyaient avoir affaire à de l'intifada, et ils ont eu affaire là. Ah, et ça, c'est pas eux qui me l'ont dit, mais je vous prie, on peut me croire, parce que je connais bien ce pays et j'ai des amis bien renseignés, ils ont été commandés par des officiers iraniens qui sont en poste à l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Alors, comment ça se passait, la guerre? Par exemple, les fusées Katyusha, ben, ils les mettaient en place dans les bananeraies, qui sont très nombreuses dans le sud Liban, ça offre la protection, et puis ils s'en allaient, ils déclenchaient le feu, étant partis à 500 mètres. Riposte israélienne, qui frappait les départs de feu, et qui ne tuait pas du tout de Hezbollah. Les Israéliens, donc, ont été très décontenancés, ils ont fait une saloperie. Il faut appeler les choses par leur nom. Tsahal, comme on dit, moi je ne vénère pas la déesse Tsahal, c'est déshonoré en employant, et certains officiers israéliens le disent, car chez eux, il y a une tradition de liberté de parole qu'il faut saluer aussi, et la presse israélienne le dit. Ils ont employé les bombes à sous-munitions.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
La bombe à sous-munitions, c'est une saloperie de bombes qui envoie des centaines de petites bombes. C'est-à-dire que, comme des billes, c'est tout petit. Et ils en ont envoyé de ces petites billes explosives qui vous envoient une jambe en l'air, qui fait mourir tous les jours au Liban deux malheureux gosses. Des gosses, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, c'est toujours tragique quand ils sont déchiquetés. Donc là, 2 500 000 billes comme ça, mortelles, se déplacent, et je vous prie de croire que c'était notre hantise. Moi, on m'avait dit à vos risques et périls, on m'avait d'ailleurs donné une escorte, mais il faut pas marcher n'importe où. Alors donc, ça a explosé par tout ça, ça a déshonoré Israël. La vérité aussi, il faut le dire, c'est que l'Hezbollah avait non seulement ces fusées menaçant Israël, il y a une route qui longe la frontière, de l'autre côté c'est la route israélienne à 10 mètres, les maisons sont là, donc vous rendez compte de la puissance détonante que cela constituait. Alors aujourd'hui le Liban, enfin, le Hezbollah a conservé le plus gros de son armement. Le plus gros de son armement, ce sont des fusées iraniennes, Selzal, à moyenne portée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles peuvent atteindre Tel Aviv. Ils n'ont donc pas utilisé, si je puis dire, le plus dangereux de leur artillerie. Alors, en quoi ça rejaillit sur la France, cher auditeur ? C'est que l'Iran, qui est un grand pays, un grand peuple, fait des gens très intelligents. J'ai beaucoup d'amis iraniens, en tout cas, mon ami Houchan Avandi, par exemple, que j'ai amené ici même, est un homme d'État éminent. Donc un grand peuple, avec des élites. Et même derrière M. Ahmadinejad, qui est un fanatique mais pas un idiot, il y a des élites. Alors, ils ont l'arme nucléaire, ou ils vont l'avoir. Ils ont tout ce qu'il faut maintenant. Alors, le dilemme pour l'Occident en gros, c'est-à-dire pour Israël et pour les États-Unis. Est-ce qu'on frappe l'Iran ? Je ne dis pas que je suis pour, moi. J'essaie de faire de l'analyse géopolitique. Alors, supposez, ou on frappe ou on ne frappe pas. Si on ne frappe pas, l'Iran n'emploiera pas l'arme nucléaire, parce que ce ne sont pas des fous. Mais il sanctuarise, ça deviendra un sanctuaire du terrorisme. Ça sera une terrible arme de dissuasion. Si on les frappe, il faut frapper des installations qui sont souterraines. Donc dans les 32 villes iraniennes, non seulement à Téhéran, mais à Hormuz, donc à Tabriz, etc. Et à ce moment-là, quelle est la réponse iranienne ? Elle peut être terrifiante. Hein ? Sur le pétrole, bien sûr, on peut couper des routes d'approvisionnement. Et puis, il déclenche la guerre au Liban, ce malheureux Liban qui n'en peut plus. Parce que le Hezbollah encadre une population très fanatisée. Ça n'est pas une population de vieux Français fatigués, pardonnez-moi. C'est une population jeune, exaltée, qui veut mourir. Partout, on voit aussi le Liban, les gigantesques portraits des martyrs, comme ils disent. Donc là, il y a du candidat kamikaze à tir larigot. Et ça veut dire donc guerre interlibanaise, parce qu'il faut bien dire, les autres non-Hezbollah ne supportent plus, sont fatigués. Ils ont derrière eux des années de guerre. Mais qu'on réfléchisse bien, qu'encore une fois, tout ça nous affectera. Alors ça sera la guerre civile interlibanaise, parce que guerre avec Israël. Bien sûr, on déclenchera tout de suite les tirs sur Israël. Voilà pourquoi, en dehors même de l'aspect sentimental, nous touchons ici à la politique, vraiment à la politique du monde, et nous payons les erreurs des régimes précédents.
Bernard, vous avez cité la présence des militaires français dans le sud du Liban. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ils servent et quelle est leur marge de manœuvre ?
À quoi ils servent ? Ils servent admirablement. Et là, je dois dire qu'une fois de plus, comme chaque fois que je suis allé dans bien des pays du monde voir des soldats français, je suis revenu fier. C'est une armée magnifique, de discipline, de gentillesse, qui fait son boulot très bien. Mais il faut voir comment elle est aimée par les Libanais. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben d'abord, ils ont rétabli tous les ponts que les Israéliens avaient bombardés. Alors moi, j'avais un chauffeur libanais. C'était quand même très émouvant pour moi. J'avais la larme à l'œil à chaque fois. À chaque pont qu'on passait, ils disaient « Vive la France !» Voilà. D'abord, pour commencer, ben, les soldats français, ils rétablissent des ponts. Ensuite, évidemment, ils sont là à devoir assurer le non-contact entre l'armée israélienne et le Hezbollah et l'armée libanaise. C'est une mission terrible, hein, terrible. Alors, rien que pour cela, on ne fait pas une mission de baratin, parce que ce sont les nôtres. Et donc, alors, en plus, ils sont là avec un bel armement, mais peint en blanc. Ça me rappelle la guerre de 14, hein, où nos troupes étaient en casoir, en blanc, etc. Donc, c'est-à-dire que si jamais ils devaient se battre, ah ben, tant qu'à faire, on les a peints en blanc, leurs chars d'assaut, comme ça, c'est quand même un peu plus visible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont été l'objet, indéniablement, de pressions, comme on dit, israéliennes. Hein, donc, nous étions là ce jour-là. Donc,
Vous voulez faire référence à l'affaire des avions?
Oui, l'affaire des avions. Le gouvernement israélien dit que c'était pour photographier. Oui, tiens, pardi. Ben oui, mais c'est ce qu'on appelle de l'intimidation. On fait du razmot, etc. Donc pour eux, c'est très stressant. Hein. Les Israéliens ne savent plus où ils en sont aussi. Ils sont très énervés. Hein. Ils savent très très bien qu'ils ont eu le revers le plus grave de leur histoire depuis la création de l'État d'Israël. Donc, chez eux, il y a des règlements de compte qui sont très... J'ai eu des conversations avec les gens qui sont en contact avec l'armée israélienne. Donc, nos soldats ont une mission extraordinairement difficile. Hein. Alors, qu'ils désarment le Hezbollah, c'est totalement impossible. Bon, c'est pas quelques milliers d'hommes qui vont aller traquer dans les cavernes, dans les immenses banlieues, etc. Donc, mission terrible. Le gouvernement français leur a donné cette mission. On peut n'être pas d'accord sur leur présence, ça c'est une chose, mais sur le boulot qu'ils font, on ne peut qu'être admiratif.
Bernard Anthony, je voudrais vous poser, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui doivent commencer à comprendre que c'est véritablement un problème géopolitique, un fait qui a été posé par notre correspondant, le correspondant de présent à Beyrouth, qui s'appelle Maroun Charbel, qui nous a envoyé un grand papier tout à fait passionnant sur cet assassinat de Pierre Gemayel. Et notre correspondant observe qu'il a été absolument concomitant avec le rétablissement des relations diplomatiques entre la Syrie et l'Irak. Ça faisait 25 ans qu'il n'y en avait plus. Et que, précisément, l'Iran appelle à un sommet tripartite entre ministres à Téhéran en fin de semaine entre la Syrie, l'Irak et l'Iran. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Oui, d'abord aux auditeurs qui voudraient ensuite plus peut-être un peu reposer, bien savoir ce qui se passe, eh bien, il y a une lecture, c'est celle de présent. Il y a dans présent des articles très très différents. Je ne suis pas toujours d'accord avec tous les articles de présent. Heureusement, d'ailleurs.
Heureusement, moi non plus.
D'ailleurs, vous non plus. Et Serge de Beketch tout autant. Et d'ailleurs, bon, on est quand même le camp de la liberté. Il faut le rappeler quelquefois aussi. Hein. Bon, on peut avoir des opinions différentes. Mais moi, j'admire, entre autres, dans présent, l'extraordinaire clarté des articles de Maroun Charbel. C'est ce qu'il y a de mieux sur la question. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de lire présent tous les jours. Alors, son analyse, je la partage totalement. Et voilà, par exemple, pourquoi... alors, on va chercher, mais Richard a dit, qui a-t-on tué d'abord? L'ennemi juré des Syriens qui veut l'indépendance de son pays. Deuxièmement, avec les facilités que donne une armée qui est dirigée en partie encore par des éléments pro-syriens. Et ensuite, donc, le leadership iranien. C'est l'élément nouveau géopolitique aujourd'hui. Je ne suis pas original en disant cela, mais c'est un élément très nouveau. C'est l'intrusion d'une nouvelle puissance qui n'est pas au niveau de la Chine, de l'Inde ou des États-Unis, ou de la Russie, mais qui est déjà une grande puissance, 80 millions d'habitants, plus de 4 fois l'Irak, avec un capital, et là on pèse bien aussi, quand on le rappelle, hélas, ça ne sert plus à rien, mais il faut quand même le dire, l'énorme erreur qu'a constitué l'invasion de l'Irak, le déboulonnage de Saddam Hussein, les Américains se sont conduits là, hélas, comme en d'autres endroits, et je ne suis pas anti-américain, ça, pas du tout, le peuple américain est un grand peuple, mais leur politique est désastreuse. Hein. Donc voilà, je crois que Maroun Charbel analyse très bien. Donc on sait très bien qu'il y a une constante aussi, qui est presque identitaire, enfin, dans ces pays-là. On est dans une autre civilisation. Alors je ne sais pas moi si le terme de choc de civilisation est Elsa, mais en tout cas on est dans un chaos de civilisation. C'est là le choc tellurique, je le disais tout à l'heure. Il y a une vieille tradition qui est celle des hachichins. L'assassinat a été considéré comme un des beaux-arts dans bien des endroits, même dans notre civilisation florentine au XVe siècle. Mais enfin, en Syrie, ah ben, c'est une constante. Je rappelle que tous ceux qui se sont opposés à la Syrie, on peut en donner la liste, dont c'est, ont été tués. Hein, donc, je ne vais pas les égrener ici, là on tomberait dans le baratin, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais ils ont été tués. Et ça n'est pas notre service étranger. Pourquoi ? Parce que, par exemple, tiens, Richard, je vous fais dire un mot, mais j'en termine. Ça n'est pas un service étranger. On ne peut pas à la fois dire... Les Israéliens ne pénétraient pas le Hezbollah, n'ont plus d'agents, ne savent plus rien de ce qui se passe au Liban, ce qui est le cas. Hein, ils n'avaient même pas des cartes d'état-major nouvelles, ils ne savaient pas qui étaient les responsables. Ils ne savent donc plus rien, ils n'ont plus d'agents, c'est un échec total. Et ce sont des officiers français qui m'ont expliqué cela à leur grand effarement. Hein. Bon, alors donc, vous imaginez que l'ici israélien a supposé, hein, je dis ça comme ça, parce que toujours on dit les services secrets, et pourquoi pas les services secrets hollandais aussi, hein. Bon, non, les services secrets qui se portent le mieux au Liban, qui sont partout, hein, encore, je les ai vus, les cireurs de chaussures, etc., ils ont leur souffle, ce sont les services secrets syriens, hein, donc ils sont là en permanence, eux seuls peuvent se permettre des assassinats en plein jour, hein, aucun service secret étranger ne peut se permettre cela.
D'ailleurs, c'est même pas... Oui, bien sûr, ils ont les services secrets syriens sont toujours sur place, mais les exécutants, il faut avoir des exécutants locaux, les hommes de main. Les exécutants, aujourd'hui, le seul pays qui a des exécutants locaux, c'est la Syrie et l'Iran. L'Iran à travers le Hezbollah, et la Syrie à travers tous les groupuscules possibles et imaginaires, plus le président de la République lui en personne, qui est leur agent. Il faut avoir des agents locaux. C'est pas, un étranger ne peut pas... Je m'adresse à tous ceux qui ne connaissent pas le Liban. N'importe qui ne peut pas aller se balader dans une voiture avec des armes, Mossad ou pas Mossad, service secret hollandais ou pas, en plein jour, descendre assassiner à bout portant, encore moins les voitures piégées, n'en parlons pas. Donc, il faut des agents locaux. Et donc, et puis surtout, je tiens à dire une chose à tous ceux qui fantasment sur ces sujets-là. C'est comme ceux qui sont assassinés, Pierre Gemayel et les autres avant lui. C'est comme si quelqu'un écrit son testament et dit « il m'a tué ». Vous savez, tous, avant de mourir, Pierre Gemayel savait qu'il devait être tué. D'ailleurs, il avait pris, pensait-il, des précautions. Il louait une voiture, il prenait une voiture de location, il la changeait tous les deux jours. Une voiture banalisée, ça l'a pas réussi malheureusement. Mais ils savent qu'ils doivent être tués, et ils savent qui, ils le disent à l'avance. Ils disent « si je suis tué, je sais qui c'est, je vous dis, c'est les agents syriens ».
Alors, j'ai là deux questions qui viennent d'auditeurs qui s'étonnent que si je ne demande pas, ça serait le Mossad israélien. Alors, je vais répondre. D'abord, si ceux qui disent cela. Et encore une fois, je l'ai prouvé tout à l'heure, je ne suis pas un inconditionnel d'Israël, pas plus des États-Unis, de la Chine ou du Japon. Mais si ceux qui disent cela pouvaient m'amener à un début de commencement de fait. Parce que notre tradition à nous, c'est fustel de Coulanges, un fait. Alors, les faits, c'est que pour l'instant, les Israéliens ne sont pas du tout au Liban, n'y comprennent rien, et la preuve, c'est qu'ils ont perdu la première partie contre le Hezbollah. Deuxièmement, quel est l'intérêt d'Israël d'avoir un Liban entièrement inféodé à la Syrie? Ça veut dire quoi? Et donc à l'Iran, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire une armée libanaise, officiellement, donc plus que jamais, contre Israël. Israël est assiégé. Israël a une mentalité d'assiégé. Leur gros problème aujourd'hui, ça serait d'avoir des espaces de paix. Malheureusement, et c'est là que je critique fort, Israël, ils ont fait une très mauvaise politique avec les Palestiniens. Ben, on va pas entamer le dossier palestinien ce soir. Je rencontrais dernièrement le patriarche latin de Jérusalem, qui est un homme admirable, courageux, Monseigneur Saba, que le gouvernement israélien déteste. Monseigneur Saba est un de mes amis. C'est un palestinien. Mais Saba disait, les Israéliens se sont enfermés eux-mêmes dans les murs qu'ils construisent. Mais ce n'est pas, donc là, moi je crois que tant qu'il n'y aura pas de paix avec les Palestiniens, tant que les Palestiniens n'auront pas droit donc à avoir un État, tant qu'on fera pour la Palestine une politique aussi stupide que celle de l'Afrique du Sud. Je sais aussi qu'il y avait des admirateurs du régime d'apartheid. Moi, non. Quand j'ai parlé ici même à Radio Courtoisie, je rentrais d'Afrique du Sud, ça m'avait paru complètement dingue, ce système-là. On ne met pas des populations derrière des murs, derrière des fils de fer barbelés. Ça ne tient pas et ça n'a pas tenu. Là non plus, ça ne tiendra pas. Mais donc, le problème d'Israël, c'est aujourd'hui, enfin, s'ils veulent survivre un jour en paix, si cela est encore possible, j'en doute d'ailleurs, ça serait de faire vraiment un règlement du problème palestinien. Mais ils n'ont pas du tout intérêt à avoir un Liban syrien. C'est un ennemi puissant qu'ils ajoutent sur leurs frontières. Donc il est complètement déraisonnable de propager cela au mépris d'avoir encore une fois, qui sait que l'on tue.
Oui, parce que moi je connais les arguments. J'en ai tellement entendu. Alors à la fin, ça devient fatigant. Mais
Il faut pas se fatiguer, Richard.
Oui, mais vous savez, quand on est... Non, moi hier, j'ai vécu une journée assez pénible. Et donc je n'étais pas du tout d'humeur d'écouter ce genre de réflexion. Mais on me dit, c'est pour accuser la Syrie. Vous savez, la Syrie est accusée de 4000 meurtres. Ils n'ont pas besoin de lui ajouter un 4000 énième, vous savez. Donc on n'a pas besoin de tuer Pierre Gemayel pour démontrer que la Syrie est un État assassin. Donc ces arguments, c'est des arguments d'un enfant de 4 ans ne peut pas les sortir. Et encore une fois, je le répète, ceux qui sont assassinés désignent leur futur assassin à l'avance. Que voulez-vous de plus ?
Écoutez, alors là, j'ai un auditeur qui dit que nous racontons n'importe quoi. Je réponds bien volontiers que le Liban est un nom très très récent. Oui, c'est un nom très récent. Ça vient 72 fois dans la Bible, mais la Bible, c'est sans doute très récent. Bon, ensuite, les chrétiens du Cham, ça s'appelait Cham, furent les premiers à s'attaquer aux croisés. Je voudrais donc rappeler ceci. C'est que le monument de l'histoire de la croisade est de René Grousset. Et que dans ce monument de l'histoire de la croisade, on dit notamment, le renfort des cavaliers maronites aux croisés, c'est eux qui ont ouvert les routes. Il y avait 50 000 cavaliers maronites qui sont venus à la rescousse de Saint-Louis. Alors, quand on nous traite d'ignorants, je renvoie ce compliment à ce monsieur qui ne sait rien, à moins qu'il ait une lecture très révisionniste de l'histoire des croisades. Mais je voudrais rappeler d'ailleurs, non seulement les remerciements de Saint-Louis, si ce monsieur qui connaît bien le Liban, qui est un nom très, très récent, rien que cela indique l'étendue de sa science. Visiter le Liban, il irait dans le cœur chrétien du Liban, la vallée d'Akadisha avec le monastère Saint-Antoine, où il verrait là la crosse offerte par Saint-Louis à l'émir des Maronites et le texte de l'alliance de Saint-Louis. Et par ailleurs, il y trouverait aussi la duplication très émouvante de la lettre de Saint-Bernard qui dit « On ne... » Quand les chrétiens d'Orient sont en grand danger, quand on ne s'inquiète pas de leur sort, on ne mérite pas le nom de fils de France et de fils de l'Église. Je m'adresse là aux catholiques qui m'entendent et d'une manière plus générale aux orthodoxes qui sont d'accord, aux protestants, à tous les bons chrétiens et à tous les bons Français.
Ça nous permet de revenir un peu sur ce que représente la famille Gemayel. Je reviens vers vous, Richard. Qu'a apporté la famille Gemayel au Liban et donc à tous les chrétiens qui se battent dans le monde pour leur...
Oui, la famille Gemayel, c'est une famille impressionnante. Moi, je les connais depuis longtemps, depuis que je suis né pratiquement. Mes parents les connaissent aussi, c'était des amis. Mais ils continuent à m'impressionner. Cette famille a donné beaucoup pour le Liban. Vous savez, Amin Gemayel, le père de Pierre, donc le rappelait hier, on ne compte plus les... chacun d'entre eux a eu un fils et un frère qui a été assassiné. Alors, hier, un journaliste devant l'ambassade du Liban me demandait si cette famille avait... n'avaient pas de chance, ou c'était la série. Ils ne sont pas morts dans un accident de voiture. C'est pas la série noire. Ils ont tous été assassinés pour une cause. Donc, au début de la guerre, le neveu d'Amin et de Béchir Gemayel, Amin Aswad, a été tué au combat. L'autre neveu, Manuel Gemayel, a été tué au combat aussi. Par la suite, la fille de Béchir Gemayel, 4 ans, a été assassinée à l'âge de 4 ans dans un attentat à la voiture piégée. Béchir Gemayel a dit, mais elle n'est pas plus importante que mes camarades de combat qui meurent tous les jours. Vous savez, il est resté debout, il a tenu le coup. L'année d'après, c'était lui qui était assassiné. Amin Gemayel vient de perdre son fils. Il a perdu son fils de 34 ans. Il avait le même âge que Béchir, en fait. Béchir Gemayel a été assassiné, élu président à 34 ans, moins de 2 mois. Pierre avait 34 ans et un mois. Tous les deux avaient deux enfants en bas âge. Pierre avait un enfant de 5 ans et un autre de 2 ans.
Ce qui veut dire que les Gemayel aujourd'hui, donc on a bien compris, Richard, qu'ils ont payé un lourd tribut, mais la relève existe toujours quand même. Donc.
Oui, heureusement, mais je crains le pire, je vous ai dit tout à l'heure, pour l'avenir, parce qu'il y a encore le frère de Pierre, Samy, qu'on a vu aujourd'hui portant le cercueil avec son père. Amin, qui conduisait même le corbillard et qui a tenu depuis hier soir, il appelle à la prière. Enfin, son fils de 34 ans vient d'être assassiné. Il appelle au calme parce que les militants voulaient aller faire des représailles et se venger. Il a appelé au calme et à la prière avec sa sœur qui est une religieuse, Mère Arzé, qui veut dire cèdre en français. Il reste debout toute la journée. Il y a des milliers de gens qui viennent présenter leurs condoléances. Tous sont debout en train de recevoir les condoléances. Enfin, ça demande un courage extraordinaire et un calme. C'est ça que je dois signaler.
Merci Richard. Passons aux questions des auditeurs qui affluent. Victoria.
Alors un auditeur nous dit, savez-vous qu'aujourd'hui 22 novembre, c'est la date anniversaire de l'indépendance du Liban?
Oui, bien sûr, c'est pour cela que tout à l'heure, nous devions aller à l'ambassade du Liban, Richard et moi, pour une journée un peu différente. Ça s'est transformé en journée de deuil, mais je crois que c'est quand même une grande journée pour l'indépendance du Liban, parce que, comme vient de le dire Richard, nous avons là un peuple debout, un tout petit peuple, mais un peuple debout. Ça, c'est extraordinaire. Je me dis que si nous, Français, et je le souhaite, nous avions quelquefois l'énergie des Libanais, après des années de guerre civile, après 130 000 morts, être capable encore de tenir comme ça, de ne pas partir, parce que ça n'est pas une fuite éperdue. Hélas, oui, il y a des Libanais qui s'en vont, mais le gros du peuple, ce petit peuple libanais de la montagne demeure accroché avec ses élites à cette terre que j'ai évoquée tout à l'heure, qui remonte à la Bible.
Un auditeur, je voudrais poser la question qu'on ne pose jamais. Quelle est la nature du contentieux idéologique qui oppose Libanais et Syriens? Après tout, un nationalisme arabe contrôlé par les Syriens aurait le mérite de ne pas être islamiste.
Oui, alors ça, c'est l'erreur que je comprends. Cet auditeur pose avec intérêt une bonne question, mais je crois que je ne vais pas faire ce soir un cours sur le nationalisme arabe. J'en dis quand même un simple mot. C'est que le nationalisme arabe, c'est-à-dire le parti Baas al-Arabie, résurrection du peuple arabe, a été créé effectivement par des intellectuels qui se voulaient laïcs et chrétiens et qui se sont tous convertis à l'islam ensuite. Donc aujourd'hui, il est parfaitement faux de dire qu'il y a là des régimes laïcs. Il y a en Syrie une minorité alaouite, c'est-à-dire une secte qui dirige, mais tout de même, c'est un de même qu'en Irak, où il ne fallait pas idéaliser. Donc c'est une très grave erreur. Richard.
Je voulais juste dire un mot, c'est que le nationalisme arabe a fait faillite. Ça a duré une cinquantaine d'années, le nationalisme arabe, mais il a été remplacé par le chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire que l'islam est revenu en force. Le nationalisme arabe est apparu au début du siècle, il est arrivé au pouvoir dans les années 50, et puis depuis quelques années, on le voit échouer partout. C'est fini, le OLP est remplacé par le Hamas, le Baas par les islamistes.
Et de même pour notre FLN algérien.
Absolument,
parce que j'ai oublié tout de même de dire, là aussi, nous avons en France des millions de musulmans traversés par les mêmes courants. hein, que les courants qui agitent le Liban ou l'Algérie, mais en Algérie, qu'est-ce que nous avons vu ? Un FLN qui se voulait laïque, progressiste, souvenez-vous, soutenu par notre intelligentsia de gauche, et qui a rétabli la charia en Algérie aujourd'hui.
Hein ? Je vous rappelle aussi que Michel Aflaq, fondateur du BAS, s'est converti à l'islam, il était chrétien, orthodoxe, il s'est converti, donc parti BAS, laïque, nationaliste arabe, laïque, il s'est converti à l'islam avant sa mort, pensant qu'on ne peut pas être un bon nationaliste arabe sans être un musulman. Ça résume tout.
Je voudrais juste aussi apporter un témoignage. J'étais moi-même en Syrie pendant 3 semaines, il y a déjà 3 ans, et j'ai vu des constructions de mosquées à tous les coins de rue, et quels que soient les coins de la Syrie où j'ai été. C'est-à-dire, effectivement, à Damas, mais aussi à Palmyre, à Hama, à Homs. Partout, quel que soit le quartier, il y avait des mosquées. D'ailleurs, je me demandais d'où venait l'argent qui se construisait. Et donc, nuit et jour, on avait cet appel au muezzin. Il est donc illusoire de penser que la Syrie est aujourd'hui un pays laïque. La Syrie est aujourd'hui un pays musulman, prosélyte, et qui construit et qui propage l'islam.
Même si c'est vrai que les chrétiens sont tolérés en Syrie, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire, il ne faut pas tout confondre, ce n'est pas parce que les chrétiens sont tolérés et ont une liberté de culte que ça devient un État laïque comme nous on l'entend. Faut pas,
oui.
Parce que souvent en France on confond tout. Alors c'est un État laïque, mais allez boire un whisky dans un café à Damas, je peux vous assurer que vous n'êtes pas très bien vu.
J'étais moi-même à un mariage chrétien en Syrie, c'est à cette occasion que j'avais fait ce voyage, et l'église était entièrement barricadée, et il y avait des hommes armée qui protégeait la cérémonie à l'entrée de cette église. Donc on est loin du pays où il fait bon être chrétien.
Oui, je rappelle que l'enseignement chrétien y est quand même interdit. Hein. Alors, je rappelle aussi que, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, l'erreur qui a consisté à abattre le régime de Saddam Hussein, qui était quand même pas non plus, faut pas exagérer, un régime idéal. Mais moi, j'ai assisté à un congrès du parti Baas irakien à Bagdad, qui commençait par les lectures des sourates du Coran. Bon, c'était un régime profondément islamique. Alors, avec quelques nuances, c'est qu'il restait donc un esprit de un peu, disons, de distinction, et c'est, voilà pourquoi je crois qu'on a fait de la politique du pire. Mais encore une fois, le monde arabe musulman aujourd'hui, qu'il ne faut pas confondre avec le monde arabe, est dans le prix d'une pulsion qui est celle, l'islamisme, c'est l'islam réel. Et on idéalise là des choses qui étaient dans le passé. Richard l'a dit très justement, et la vérification que l'on peut en faire, c'est quand même l'Algérie, et même la population d'origine algérienne chez nous, qui s'est islamisée beaucoup par rapport à ce que c'était il y a quelques dizaines d'années.
Et puis il n'y a pas, pour finir, pour conclure, il n'y a aucun régime nationaliste arabe qui ne soit dirigé que par une dictature sanglante. Donc pour répondre à cet auditeur, peut-être que les chrétiens du Liban n'ont aucune envie de vivre sous une dictature sanglante, aussi nationaliste arabe soit-elle.
Alors un auditeur me pose la question, qui a fait le coup? Jean-Marie Le Pen ce matin a semblé éliminer la solution numéro 1 de la Syrie. Je pense qu'il a dû dire quels éléments il avait, parce qu'autrement, de la part, je pense qu'il avait, donc il a bien dû dire, je m'étonne un tout petit peu, parce que j'ai pas entendu dire qu'il ait pu apporter. Bon, alors, quels éléments pour dire que ce n'est pas la Syrie, alors que, me semble-t-il, nous donnons là, nous, des preuves. C'est en tout cas, je pense, toute la famille Gemayel.
C'est ce que j'allais dire. En tout cas, tout à l'heure, on était à l'ambassade avec Bernard et on discutait avec un monsieur que je ne souhaite pas être cité, qui est un ami personnel, qui a eu, un des rares qui a eu Amine Gemayel au téléphone aujourd'hui pendant 2 minutes, ce qui était pas facile à. Et pour la famille Gemayel, ça ne fait aucun doute pour le père, pour toute la famille, que c'est la Syrie et ses alliés. Alors je pense qu'ils sont quand même mieux placés pour savoir qui a tué leur fils.
Alors ensuite, que ce ne soit pas M. Bachar al-Assad en personne, bien évidemment, de même que les empoisonnements russes, c'est pas Poutine en direct, hein, c'est bien évident. Alors ça peut être des alliés, des manipulés, ça on le sait fort bien, mais moi, voilà, c'est du débat. Hein. Nous restons des nationalistes français, on peut avoir des opinions divergentes. Moi, ce que je sais, c'est qu'avec vous, Cécile Montmirail, quand nous étions à Tripoli, hein, je me souviens de cette ouverture de cette prison atroce. C'est pas une prison, c'était des mouroirs où les Syriens ont laissé groupir là et mourir dans des dizaines d'opposants. Enfin, c'est les charniers d'Anjar, que sais-je encore. Il y a eu là le faisceau de témoignages est tel que comment pouvoir penser que ce régime de M. Bachar al-Assad pourrait évoluer. Peut-être qu'il voudrait évoluer par rapport à son père, mais c'est un régime terrible et qui est dans une constante, j'allais dire, stalinienne, dont il ne se défait pas. Voilà ce que je pense.
J'ai quatre messages à peu près sur le même sujet.
Excusez-moi. Et puis on passera à autre chose, oui. Victoria. Voilà les trois dernières questions.
Hein. Un ignorant vous interroge. Pouvez-vous m'éclairer sur la position et le rôle du général Aoun aujourd'hui ? Général des chrétiens, il est, paraît-il, favorable aux Syriens.
Oui, bien...
Attendez, il y a d'autres sur le même sujet. L'intervenant sur le Liban, qui a visité ses amis politiques, nous donne une vision déformée de la réalité libanaise, parce qu'il y a aussi des chrétiens dans le camp syrien, notamment le général Aoun. Attendez. Les chefs de clan se conduisent comme des mafieux de Sicile. Autre message. Monsieur Anthony n'a pas dit que le général Aoun et Monsieur Frangier, chrétiens, soutiennent le ex-Hezbollah et la Syrie. Ce sont des traîtres. Dans 10 ou 15 ans, les chiites seront majoritaires et les chrétiens seront entièrement exterminés. Un autre auditeur. Je suis maronite catholique, c'est tout. Je suis dégoûté de la classe politique libanaise. Je ne supporte plus qu'on déstabilise le Liban. Et les 100 000 Palestiniens du Liban. Israël ne veut pas qu'ils rentrent chez eux et personne n'en parle. Et celui-là, ça peut aussi passer. Ce sont les Libanais qui ont fait appel aux Syriens contre les Palestiniens. Pourquoi ont-ils fait appel à eux ?
Bien, ben ce sont des bonnes questions, je dois dire, de gens informés, intelligents. Alors pour ce qui est du général Aoun, ben c'est très simple. Je l'ai rencontré en 89. J'ai dit que cet homme était irresponsable. Je lui ai dit, mon général, ne faites pas la guerre interchrétienne. Il est vrai que des hommes politiques français étaient passés, il leur remettait la nationalité libanaise. Moi, je ne l'ai pas voulu. Je n'ai qu'une nationalité, la française. Il leur remettait une grande décoration, l'ordre du Cèdre. Était passé Monsieur Léotard, je ne sais plus qui encore. Je préfère pas citer, ça chagrinerait quelques auditeurs. Bien, le général Aoun, à cette époque-là, s'est lancé dans une guerre folle, me disant l'Occident m'aidera. Je lui dis, mon général, l'Occident ne vous aidera pas. Et puis ensuite, il a laissé les officiers de la 8e brigade de l'armée chrétienne prendre une balle dans la nuque. Lui, il est rentré en France. Il veut être président de la République à tout prix. Le général Aoun me semble, comme l'a dit un auditeur, mais je croyais que c'était bien clair, on l'avait dit, je ne qualifierais pas de traître pas ces choses-là. Il joue un jeu politique fou. Il tient d'un côté un discours jacobin. C'est un grand admirateur du général de Gaulle. Je l'ai vu, il avait le portrait du général de Gaulle sur son bureau. Hein, mais je lui dis, mon général, vous êtes à Beyrouth, vous n'êtes pas à Londres pendant la guerre. En tout cas, lui, il se veut jacobin, je pourrais dire, et il s'allie au Hezbollah, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intégriste musulman, de plus chimiquement pur. Voilà, comprenne qui pourra. Alors ensuite, je comprends le dégoût de cet auditeur maronite, et lui, il est à Paris, il a choisi, hélas, une voie. Moi, j'admire les Libanais qui ont le courage de demeurer chez eux. Et vous voyez, je préfère... les Libanais sont chez nous en France depuis Saint-Louis, mais il faut qu'ils comprennent qu'il n'est pas le dégoût pour ceux de ses compatriotes qui sont demeurés là-bas. Et pour ce qui est des Palestiniens, bien entendu, l'auditeur qui nous dit cela a totalement raison, car le problème palestinien, ça a été dramatique. Hein, les Libanais ont commis l'erreur de recevoir à bras ouverts. Et là, je rejoins Jean-Marie Le Pen totalement, qui a su en son temps dénoncer l'immigration comme il le fallait. Moi, je dénonce toujours l'immigration, parce que je vois effectivement ce que ça a causé au Liban. Et les Palestiniens, ils ont occupé le Liban en partie, et donc à l'époque, les Syriens sont venus un tout petit peu comme aider le Liban. Liban, à se débarrasser des Palestiniens, et puis ils sont restés là. C'est vrai ce que disait cet auditeur, il y a des fautes qui se paient, et les chrétiens du Liban, leurs chefs ont commis de grandes fautes. Mais ils ont eu aussi des bons chefs qui n'ont pas commis des fautes, c'était Béchir Gemayel. Richard, il faut aller vite.
Juste très vite, on ne va pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais l'affaire de la Syrie qui rentre à l'appel des chrétiens, vous savez, il fallait prendre du temps pour se réarmer. Si la Syrie, l'armée syrienne n'était pas rentrée à l'époque, il y aurait plus. Les chrétiens étaient à 48 heures, ils avaient leur dernière cartouche. Voilà. Ce sont des affaires compliquées, on ne peut pas traiter comme ça en deux minutes.
C'est vrai. Mais enfin, bon, voilà. Hein, des erreurs ont été commises. Alors, pourquoi on terminera avec le Liban pour cela? Parce qu'il faut passer aux autres sujets. Cécile Montmirail.
Je voudrais apporter juste un témoignage sur l'importance du Hezbollah et revenir à la question qui avait été la question que vous avez posée au tout début de ce que signifie ce conflit pour nous Français. J'étais la semaine dernière en présence de deux représentants du complexe pétrolier d'Algérie. Et j'étais donc en face de ces deux personnages qui étaient donc très proches du gouvernement FLN. Personne, bien entendu, a bu du vin. Ils étaient donc musulmans convaincus. Et à table, ils n'ont parlé que du Hezbollah. Ils ont parlé du Hezbollah et de la lutte contre l'Occident. Et il est donc vrai qu'aujourd'hui, tout le monde arabe se cristallise autour de cette question et que nous, Français, nous avons des millions d'Arabes chez nous, musulmans, qui sont effectivement traversés par ces courants islamistes et pour qui aujourd'hui le Hezbollah est le fer de lance de la lutte contre nous. Et ce qu'il se passe au Liban est effectivement primordial pour cela, et c'est pourquoi, Bernard, il était très important que ce soir vous nous disiez ce que vous y avez vu et quelle est la résonance que cela peut avoir pour notre pays.
Oui, mais là, l'heure tourne, nous avons d'autres dossiers. Alors, je crois que j'ai dit l'essentiel. Ce que j'ai vu, c'était un pays coupé. J'ai dit ce que j'avais vu de la frontière israélienne. J'ai dit, je pense, l'essentiel. Pour conclure sur le dossier, voyez-vous, un auditeur qui dit pourquoi le gouvernement français a-t-il si violemment réagi contre les survols israéliens du Liban alors qu'il ne dit rien contre la violation de la résolution de l'ONU que constitue le réarmement du Hezbollah. Non, alors là, sur ce plan-là, je ne vais pas attaquer abusivement le gouvernement français. D'abord, le gouvernement français a eu raison de réagir contre les survols israéliens de notre base, hein, parce que ça, il y a un accord qui est fait, le gouvernement français fait son travail. Un autre souhaiterait donc, alors on me parle du maintien des deux soldats israéliens enlevés, je sais que pour ma part, le gouvernement français ne peut pas faire autre chose que ce qu'il fait. Voilà, et Dieu sait que je suis un opposant, on le sait, sur tous les autres sujets, farouche, mais nos soldats n'ont pas d'autres moyens. Ensuite, on me dit pourquoi une bombe ne calmerait pas définitivement tous ces excités du Proche-Orient. Non, nous sommes des hommes politiques responsables. Alors pour conclure sur le sujet, voyez-vous, moi je suis partisan de la sûreté de l'État d'Israël dans des frontières garanties. Je suis partisan d'un État palestinien paisible, pouvant s'occuper de ses affaires, et d'un Liban indépendant. Et après tout, je ne fais là que défendre, ça n'étonnera personne. Les positions ont toujours été excellentes en matière de politique internationale du Vatican.
Justement, c'est une bonne transition. Je me tourne vers Jeanne Smith. Vous rentrez de Rome, où vous avez assisté au Congrès du Ciel. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'a été ce congrès ?
Alors, ça a été un beau succès. Comme vous le savez sans doute, le Ciel, c'est le Centre international d'études liturgiques. C'est une association fondée il y a une douzaine d'années par quelques jeunes, qui étaient encore très jeunes à l'époque, qui étaient des laïcs, et qui avaient envie de défendre la liturgie traditionnelle un peu d'une autre façon, en faisant réfléchir sur elle, et surtout en attirant vers leur réflexion des personnes qui, a priori, n'étaient pas proches des combats traditionnalistes, pour aller vite.
Est-ce que c'est la première fois que ce congrès a lieu à Rome?
Non, c'est la deuxième fois, et les prochains, pendant les quelques années à venir, sont déjà prévus pour se dérouler à Rome, ce qui est tout à fait intéressant. Ce que j'ai vu à Rome, c'est que aujourd'hui, pour défendre la messe traditionnelle, pour en parler, pour en discuter, pour en dire la richesse, pour en dire la beauté, pour dire le rôle de la liturgie, vous n'avez pas seulement des gens qui sont dans la fraternité Saint-Pidis ou ailleurs, dont je ne veux pas du tout minimiser le rôle, bien au contraire, mais ce que je cherche à vous dire, c'est que ces personnes qui sont en dehors du combat le rejoignent d'une certaine façon. Ce que nous avons vu à Rome, j'y étais avec Olivier Figueras, qui se trouve être aussi mon époux, nous étions là, nous avons représenté présent, eh bien, nous avons essayé d'avoir des interviews à Rome. Pourquoi ? Parce que tout le monde parle d'un motu proprio que notre Saint-Père serait en train de préparer, qui paraîtrait la semaine dernière. Enfin, on a eu toutes les dates possibles. En fait, on n'en sait rien. On sait qu'il y a quelque chose dans les tiroirs, on ne sait pas quand ça sortira.
Un motu proprio sur quoi, Jeanne ?
Sur la libéralisation, sur la remise à l'honneur de la messe traditionnelle. Eh bien, nous avons cherché à avoir des interviews. C'était normal, nous avons eu un non tout à fait inhabituel, je dirais, au Vatican, parce qu'en fait on a assez facilement des interviews. Il nous a été répondu que maintenant il faut le silence. Il nous a été répondu que le sujet est trop chaud. Donc, autrement dit, tout Rome en parle. Tout Rome en parle, mais Rome n'en parle plus vers l'extérieur, et je trouve cela tout à fait intéressant et encourageant. Nous avons vu, en revanche, des choses pratiques. Nous avons vu la présence de Mgr Ranjit, nommé d'ailleurs par Benoît XVI à la congrégation pour le culte divin, et bien Mgr Ranjit est venu dire un mot au congrès du ciel. Association de laïcs, faisant parler des sommités, certes des personnes tout à fait intéressantes, mais avoir un représentant d'un dicastère romain, c'est tout à fait intéressant et nouveau. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'il représentait le cardinal Arinze, qui en est le préfet. Or, le cardinal Arinze n'est pas, je pense, connu pour son soutien personnel à la liturgie traditionnelle. Je crois que c'est pas son truc, pour parler vulgairement. Eh bien, il a dépêché quelqu'un, il ne pouvait pas venir lui-même, il était empêché. Il a envoyé Mgr Ranjit, qui lui est personnellement connu comme étant tout à fait favorable à la liturgie traditionnelle. Et Mgr Ranjit est venu dire son soutien à ce combat. Et autre chose intéressante, aujourd'hui à Rome, dans n'importe quelle église, la messe traditionnelle est célébrée, mais sans aucun problème. Et c'est vrai, y compris à Saint-Pierre de Rome. Ça l'était déjà à la fin du règne de Jean-Paul II, ce qui est intéressant, ainsi vous le soulignez. Aujourd'hui, n'importe quel prêtre disposant d'un célébrette, eh bien, il célèbre dans le rite de Saint-Pie V à Saint-Pierre de Rome. Je connais un bon moine qui a pu le faire sur la tombe de Saint-Pidis. C'était, je crois, une grande émotion pour lui. Et dans le cadre du Congrès du Ciel, une messe a été célébrée dans une chapelle latérale importante de Saint-Pierre de Rome sur les reliques de Saint-Jean Chrysostome. Je crois qu'il y a là beaucoup, beaucoup de symboles, et c'était extrêmement encourageant. Et je peux vous dire que nous avons raconté ça dans le présent de samedi dernier, et nous avons été personnellement très émus de ce congrès.
Est-ce que ça veut dire, Jeanne, que ce nouveau droit de cité de la messe traditionnelle dans l'Église marque l'éloignement de l'Église vis-à-vis de Vatican II et donc du retrait de l'Église dans l'implication qu'elle avait dans la cité ?
Alors, je ne crois pas. Je vais vous répondre en deux temps. Je ne crois pas que Benoît XVI s'éloigne véritablement de Vatican II parce qu'il y est attaché. Mais Benoît XVI demande une relecture de ce concile. Il l'a fait le 22 décembre dernier devant la Curie. Donc, on n'est pas dans la même logique qu'autrefois. On est dans une logique de correction des erreurs et de relecture du concile vu à la lumière de la tradition. Donc je ne sais pas si ça va totalement dans le sens que nous pouvons défendre. Mais je crois aussi que le Saint-Père, à la fois dans son appréciation de la liturgie, de la beauté, de tout ce qui est traditionnel, et dans son combat politique qui me semble évident, et notamment à travers ses discours aux évêques en visite à l'Imina et aux ambassadeurs près le Vatican, eh bien, le Saint-Père est en train de donner une impulsion politique majeure à son règne, et je crois que cela se fait sur le plan de la défense de la cité dans ce qu'elle a de plus fondamental. Alors là, le mariage, la défense de la vie, dans tous ces grands sujets qui sont ceux de l'Église, qui ne sont pas des combats politiciens, qui ne sont pas des combats de parti, eh bien, sur tous ces sujets, le pape a un discours extrêmement ferme, extrêmement combatif, et je crois que ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qui a pu apparaître comme l'ouverture au monde de Vatican II.
David Fonteux.
Oui, je voudrais poser une question à Jeanne Smith. Comment vous analysez cette agitation qui a saisi l'Église de France? D'abord, est-ce qu'il y a eu une véritable agitation? Est-ce que c'est pas plutôt de l'écume fomentée par les médias de gauche? Mais que s'est-il passé dans l'Église de France, puisque à Lourdes, il y a eu des déclarations dans lesquelles les évêques auraient manifesté de l'inquiétude?
Alors, il manifeste une inquiétude qui est assez rigolote, il faut le dire. Il milite pour l'unité de la liturgie. Alors, je défie quelconque de trouver la messe de Paul VI intégralement respectueuse des rubriques, et de Vatican II qui lui demandait le latin et l'orientation vers Dieu. Donc là il y a quelque chose d'un peu surréaliste. Il y a un clergé français vieillissant qui est horrifié par ce qui se passe. Je crois que c'est véritable, et je crois que ce sont plutôt eux qui manipulent les médias que l'inverse. Les médias, je crois, se foutent royalement de savoir si on célèbre vers l'Orient ou vers le peuple. Ça n'est pas leur tasse de thé, mais ils en rajoutent parce que ça fait agiter un petit monde gauchiste. Ce qui était frappant à Rome, c'était la présence de clercs français, de vicaires généraux français, de religieux français qui ne sont pas, je vous l'ai dit, dans les groupes traditionnels quels qu'ils soient, et qui étaient là ouvertement, sans se cacher, et qui apportaient leur pierre à l'édifice à la reconstruction d'une liturgie qui soit centrée sur le Christ et qui soit respectueuse du sacré. Ce qui s'est passé à Lourdes avec le cardinal Ricard, je ne saurais interpréter les pensées du cardinal. Ce qui me frappe, c'est que, eh bien, il essaie de composer avec un clergé vieillissant qui, lui, n'est plus capable de comprendre ce qui se passe.
En tout cas, il y a un désir de la part des jeunes prêtres de revenir aux sources de la liturgie. Quand même, on voit de plus en plus de cols romains chez les jeunes prêtres. Le Sanctus refait son apparition. Il y a des prières qui sont dites désormais en latin, y compris, enfin, dans les paroisses de quartier.
Oui, je crois que je m'en réjouis. J'ai l'impression que ça correspond à un goût réel, et pas seulement à une sensibilité, mais à un sens de la doctrine qui est véhiculée par la liturgie, par la Sainte Liturgie. Je crois aussi que le vent souffle, et puis on sait de quel côté son pain est beurré.
Vous avez parlé, Jeanne, de l'importance du combat pour la vie de Benoît XVI. Je crois que sur votre blog, hein, que désormais nous pouvons lire régulièrement, vous avez traduit un discours très important de Benoît XVI dont les Français n'ont pas encore eu connaissance.
Alors, je vous annonce qu'il paraîtra dans présent d'après-demain. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas Internet, les autres peuvent le trouver effectivement sur le blog que j'ai eu l'audace d'ouvrir et que je n'alimente pas suffisamment sans doute, mais enfin bon, j'ai traduit ce discours aux évêques suisses qui étaient en visite ad limina le 9 novembre. Le pape leur a parlé un petit peu de chic parce qu'il n'avait pas eu le temps de préparer son discours, il s'en est beaucoup excusé. Le résultat, nous avons là un discours de toute beauté avec toute la richesse de la réflexion du Saint-Père, et lui, il s'interroge sur les deux moralités que nous vivons aujourd'hui, la moralité public qui est celle de l'écologie, du respect, je ne dirais pas de la création, parce que ce n'est pas tellement le combat, mais le respect de l'autre, la non-violence, justice pour tous, sollicitude à l'égard des pauvres. C'est vrai que pour beaucoup de jeunes, ce sont des questions qui sont importantes, mais observe Benoît XVI, cette moralité-là est coupée radicalement d'une autre moralité que l'Église, elle, défend, qui est celle du respect de la vie, du respect de la loi naturelle, du respect du mariage, parce que la destruction du mariage dit très clairement, Benoît XVI, devant ses évêques le 9 novembre, eh bien, elle est destructrice de la société telle que nous la connaissons. Et donc, il parle de tout cela et dit que l'un des combats extrêmement importants de ce temps est de raccorder ces deux moralités et de montrer qu'il est absolument impossible de prétendre à la paix si on n'est pas prêt à faire à mener le combat pour le respect de la vie. Et ça, je crois que c'est tout à fait important que notre pape ait cette connaissance profonde des goûts des uns et des autres et qu'il ne fléchit pas un instant là-dessus.
J'en profite quand même pour faire une petite réplique, parce que nous sommes quand même dans l'émission de la réplique.
Répliquez, Cécile, répliquez.
Je voudrais parler de l'affaire Tony Anatrella. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Tony Anatrella, qui est donc un prêtre, psychanalyste ou psychiatre,
psychanalyste,
qui a été accusé d'être pédophile il y a de cela 15 jours sur Europe numéro 1. J'écoutais la radio et donc au journal, je crois, de 7h, de 8h, on nous a appris que Tony Anatrella, en insistant sur le fait qu'il était un prêtre, était un pédophile, qu'il était poursuivi pour cette question. Aucune parole n'était donnée à Tony Anatrella pour se défendre. Et puis plus rien. Plus de nouvelles, pas d'interview de Tony Anatrella pour pouvoir éventuellement s'exprimer. Et on apprend dans le monde d'hier ou d'avant-hier qu'on nous refait une tartine sur Tony Anatrella, accusé de pédophilie, avec un deuxième témoignage, etc. Et puis dans la dernière partie de l'article, on apprend que Tony Anatrella est un prêtre qui a fait des recommandations auprès du Vatican pour que désormais, dans le recrutement entre guillemets des jeunes gens pour la prêtrise, eh bien, il fallait faire attention à ceux qui pouvaient être homosexuels. Et le monde dit que c'est peut-être pour cette raison que Tony Anatrella serait ainsi mis en cause, et on laisse entendre, mais sans le dire vraiment, que tout ça pourrait être un montage. Alors, pourquoi une réplique ? Une réplique parce que souvent, à la radio, il y a comme ça des informations qui arrivent, qui sont jetées en pâture sur la scène médiatique, et puis qui n'ont pas de suivi. Et bien entendu, loin de moi, la volonté de soutenir des prêtres qui pourraient être pédophiles. Bien entendu, ce sont des horreurs et il faut les châtier. Mais quand même, il y a contre ce prêtre qui s'est montré un attentif à la question des prêtres homosexuels et de ce que ça pouvait entraîner, une attaque qui me semble assez perfide.
Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.
Bon, Frédéric Pichon a pris la parole, et là, il faut qu'il nous parle de la manifestation de demain à laquelle nous appelons.
Tout à fait, Bernard. Alors, effectivement, très rapidement, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, nous organisons demain, jeudi 23 novembre 2006, à 19h, place du Trocadéro, un rassemblement, une commémoration pour le 50e anniversaire de Budapest. Une commémoration qui fait suite à une première tentative, si j'ose dire, qui devait avoir lieu le 28 octobre. Peut-être certains auditeurs de Radio Courtoisie en ont-ils entendu parler. Il ne s'agissait pas d'un rassemblement qui était violent. On ne manifestait pas pour l'abolition de la loi Guesso. On manifestait pour rendre hommage aux enfants de Budapest, qui avait lutté courageusement pour la patrie et contre le communisme. Et aujourd'hui, on lit toute la presse, y compris la presse de gauche, et tout le monde rend une certaine hommage à cet héroïsme du peuple hongrois, parfois pour tirer la couverture, pour essayer de récupérer cette révolution en disant c'est une révolution antitotalitaire, en oubliant qu'elle était quand même avant tout une révolution patriotique et anticommuniste. Alors ce rassemblement n'a pas eu lieu initial, puisqu'au dernier moment, à l'appel du groupe extrémiste de gauche, c'est très facile comme méthode, on pourra le faire aussi peut-être de notre côté, bien ils ont appelé à contre-manifester alors que j'avais déposé le rassemblement 2 semaines avant. Le matin, au réveil de mon lit, à 9h, 2 inspecteurs de la police me notifient l'arrêté d'interdiction en disant « on est désolé, on peut pas assurer votre protection, puisque des groupes ont appelé à vous casser la figure ». Alors je
suis avocat, je fais un référé liberté, c'est une procédure d'urgence, on va devant le tribunal administratif. Devant le tribunal administratif, une heure avant la manifestation, la préfecture n'avait rien dans son dossier. Il y avait juste l'arrêté d'interdiction. Alors quand on fait du droit, on apporte la preuve de ce qu'on avance. De sources confidentielles, les renseignements généraux, des éléments subversifs ont appelé à contre-manifester. On ne peut pas assurer votre sécurité, on ne met pas en cause le sérieux et le caractère pacifique de votre association. Et pour votre bien, on vous interdit, parce que en plus de surcroît, on n'a pas ces troupes, puisque celles-ci sont disposées en banlieue, pour assurer la sécurité. Et la présidente s'excuse presque de cette décision. Elle met une heure et quart avant de rendre cette décision, et je ne vais pas porter d'accusation sur cette radio, mais elle n'est pas du tout conforme à la jurisprudence. Donc je pense qu'il y a une intervention du Saint-Esprit, et elle statue ultra petita, c'est-à-dire au-delà même de ce qui a été dit et soutenu par la préfecture, c'est qu'elle ajoute dans sa décision qu'on a déjà organisé par le passé des rassemblements violents, ce qui d'une part est totalement faux, mais ce qui d'autre part n'a même pas été soutenu par la préfecture. Comment cette dame, de son propre gré, peut-elle ajouter un élément qui n'a pas été soulevé par les partis, si ce n'est, je le dis, par l'intervention du Saint-Esprit ou... Que sais-je, je n'irai pas plus loin.
Du mal saint.
Voilà. Je ne pense pas que ce soit le Saint-Esprit. Enfin bref, il se trouve que la police qui ne pouvait pas assurer notre sécurité était présente ce jour-là avec 19 quarts de CRS.
Mais justement, Frédéric Pichon, je crois qu'il y a eu des arrestations qui ont été faites alors que les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Beaucoup d'entre eux apprenaient que la manifestation était annulée. Et sur la place du Châtelet, ils étaient embarqués dans le panier à salade et donc certains ont passé plusieurs heures au commissariat.
Effectivement, il y a eu plusieurs dizaines d'arrestations. Il y avait un commandant de police particulièrement zélé que je ne citerai pas, mais qui a fait du très mauvais, qui a fait du zèle. Je pense que cet homme-là, peut-être, voulait montrer à ses supérieurs hiérarchiques qu'il était efficace. Et il a arrêté effectivement trois dames âgées, dont une dame de 86 ans, trois animateurs de Radio Courtoisie, un avocat, le bilan était quand même assez dramatique, et les policiers qui les ont interpellés ensuite au commissariat étaient complètement écœurés, parce que à 200 mètres de là, de notre manifestation, il y avait quand même une manifestation pro-palestinienne et pro-Hezbollah, avec la présence de Kémy Séba, le chef de la tribu K, et les policiers qui les embarquaient dans la camionnette, on entendait des messages radio, m'a rappelé un copain avocat qui a été embarqué, mais on comprend pas, il y a Kémy Séba qui est à 200 mètres de là, qui débarque avec la tribu K dans une manif pro-Hezbollah, et nous on va arrêter une vieille dame, on va arrêter des gens de 80 ans, on va les mettre en garde à vue. Enfin, c'était une situation complètement ahurissante.
Alors, ils se sont trompés.
Je pense que, je ne sais pas, j'ignore les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas si c'est une intervention de M. Sarkozy ou qui est d'origine hongroise.
Oui. Moi, je crois que tout de même, là, Sarkozy a pratiqué la plus détestable politique d'une tradition de la Ve République, l'alouette et le cheval. Alors, donc, pour ne pas combattre le cheval ou la grosse jument d'extrême gauche, on s'en prend à la petite alouette d'extrême droite et on dit, vous voyez, nous on combat tout le monde, hein, donc aussi bien les émeutiers des banlieues que l'abominable extrême droite que nous représentions,
dont je ne fais pas partie, mais
dont nous ne faisons pas partie, mais c'est dans le schéma donc de la propagande Staffel. Là, je dois dire que Monsieur Sarkozy, sur ce plan-là encore, nous déçoit très fortement. J'espère que je vous choque pas autour de la table.
Non, du tout.
Non,
ce qu'il convient de souligner, c'est quand même, et c'est tout à l'honneur de votre association, vous avez organisé le seul et unique rassemblement en mémoire des 200 000 personnes qui sont mortes par la répression soviétique en France.
Alors, je ne sais pas combien de temps on a pour finir.
Allez-y, Frédéric. Hein? Il faudra laisser un peu la parole à Victoria. Vous viens tout de suite, si vous voulez, vous reprenez. Ça sera fait. Et à Jeanne Smith. Et puis après, on reprend. Je vous redonne. Elle en a pour 20 secondes, Victoria.
Oui, c'est simplement que Serge de Beketch a téléphoné tout à l'heure. Alors, il tient absolument à s'excuser. Puis il est désolé d'avoir oublié deux invités de ce jour, c'est-à-dire le pasteur Blanchard et M. Herbin, secrétaire général de l'Action sociale populaire. Et il annonce donc qu'ils seront reçus le 13 décembre dans son émission à 18h30.
J'en suis heureux pour le pasteur Blanchard, qui est vraiment un homme très bon et qui fait du très bon travail. Jeanne Smith.
Juste une petite annonce. Il y aura un concert pour annoncer Noël au Bon Conseil le dimanche 3 décembre 2006 à 15h. Ce concert sera chanté par les Petits Chanteurs de Saint-Louis, dirigé par Anne-Claire Fauchet. C'est une formation de qualité et il y aura de jolis Noël pour préparer Noël.
Alors,
donc 6 rue Albert de Lapparent, métro Ségur à Paris.
Alors Frédéric Pichon, avant Noël, il y a la célébration, on y revient, je vous donne la parole, là vous avez tout le temps maintenant.
Jeudi 23 novembre 2006 à 19h, place du Trocadéro pour commémorer donc le martyr et l'héroïsme des enfants de Budapest. Il y aura aussi un ami que vous connaissez bien, Lajos Martón, qui a été un des insurgés, un des plus grands résistants au communisme, qui était là, je me souviens, le 28 octobre lorsqu'on a voulu commémorer ça. Il était ébahi, cet homme-là, qui avait combattu le stalinisme, qui avait fui son pays, et de voir que c'était la police française qui empêchait cette commémoration. Je lui disais, mais je suis désolé au nom de la France, j'ai l'impression que nous non plus, on n'est pas dans un pays libre. Alors certes, on ne va pas comparer ce qui s'est passé le 28 octobre avec l'insurrection du 23 novembre 1956. Je rassure les auditeurs de Radio Courtoisie, le rassemblement de demain est autorisé, donc ils pourront venir a priori sans prendre le risque d'être embarqués dans des paliers à salade. Ça sera dans le calme et la dignité. Je crois que vraiment c'est un devoir d'homme libre d'être là présent demain. On peut se dire Budapest, ça a 50 ans, c'est quelque chose qui est vieux. Le mur de Berlin est tombé. Moi je dis que c'est grâce à ces enfants, c'est grâce à ces gens-là que le mur s'est effondré, parce qu'ils ont donné le message.
Frédéric Pichon, il n'est pas tombé pour tout le monde ce mur. J'ai ici une perle trouvée sur Internet qui émane de la section du Parti communiste français du 14e arrondissement, qui déclare, alors c'est long, mais c'est vraiment une perle. J'invite tous les internautes à aller voir sur ce site ce que ces gens écrivent. Le parti avait raison d'approuver l'écrasement de l'insurrection hongroise. Il avait des raisons de le faire. Que leur répondez-vous ?
La même chose, si vous voulez. Quand on a été interdit notre rassemblement, on a dit ce sont des gens d'extrême droite. C'est ce que disait le commandant de police. En 1956, lorsque ces gens descendaient dans la rue, on disait ce sont des fascistes, ce sont des contre-révolutionnaires. Qu'est-ce qu'il y avait dans la rue ? C'était des étudiants, des lycéens et des ouvriers. C'était le peuple hongrois qui était dans la rue. Donc, on connaît cette argumentation, c'est le mensonge incarné. Il y avait Jean-Paul Sartre aussi qui disait, il ne faut pas désespérer Billancourt, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en parler, parce que sinon, tout notre édifice du mensonge, il va s'effondrer. Je crois que nous sommes là pour rendre un témoignage à la vérité, et nous savons que la vérité, elle rend libre, et c'est en homme libre que j'appelle tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent. Il est important qu'ils soient là demain, quelle que soit l'opinion qu'ils ont de ce rassemblement, mais c'est signifier qu'aujourd'hui en France, il y a encore des hommes libres qui sont là pour la défense des patries charnelles et pour la liberté.
Surtout à une époque où justement on parle de devoir de mémoire historique en permanence, il faut rendre hommage aux gens de Budapest qui sont battus en 1956.
Oui, tout à fait.
Nous avions encore quelques autres questions à aborder, Cécile, mais il nous reste très peu de temps.
Il nous reste 2 minutes, alors je ne sais pas si on a le temps d'aborder la question d'Airbus.
Ah, la question d'Airbus me tient beaucoup à cœur. Nous changeons de registre, voyez-vous, elle me tient beaucoup à cœur parce que je suis toulousain, que j'ai travaillé comme conseiller aux relations sociales, que j'ai formé des centaines de cadres d'agents de maîtrise de l'aérospatiale aux relations du travail à Toulouse, et que j'aime passionnément cet avion. Mais
la situation, je crois, Bernard, est grave, puisque les commandes sont annulées. Rapidement, est-ce que... Oui, dites-nous ce que vous savez.
Alors, je ne peux pas traiter du dossier d'Airbus ce soir, mais on y reviendra. Mais je vais dire simplement quelque chose. C'est que Airbus a été une bonne réussite européenne au début. Elle est maintenant une mauvaise réussite mondialiste. Pourquoi ? Parce que au fond, on distribue le travail d'Airbus au monde entier. Les uns font un petit bout de siège, les autres font les hublots, les autres font ceci, cela, les Espagnols, les Italiens, bien sûr les Français, les Allemands encore, mais déjà un peu les Japonais. Donc, Boeing produit plus vite, à meilleur marché, en respectant une simple loi qui est une loi classique, la loi d'unité de lieu et d'unité d'action. Et tout le drame aujourd'hui, mais je le développerai, c'est que donc Airbus souffre terriblement du fait que c'est une tâche qui est maintenant trop répartie, que l'unité de commandement donc laisse à désirer, que ensuite la production est de moins en moins facile, mais je développerai cela. C'est donc une erreur politique qui pèse maintenant sur l'avenir d'Airbus, et là
hélas, l'économie française risque encore d'en prendre un coup.
Vous en parlerez dans Reconquête, Bernard.
Mais j'en parlerai dans Reconquête, merci, parce que je parle trop peu souvent de Reconquête, alors que c'est tout notre programme, la Reconquête. Merci, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et bonne santé, Serge de Bekech.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet radiocourtoisie.com.
Dans le froid et la vanille.
Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 22 novembre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 23 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de...